Salut et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coach sportif, dédié aux coachs sportifs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Elliot, mais avant de commencer l'épisode, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne YouTube Jimki et à activer les notifications pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et évidemment, nous laisser les 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça nous aide énormément à nous développer et à faire en sorte que d'autres coachs sportifs puissent bénéficier du podcast. Donc, je t'invite à mettre les 5 étoiles et nous, on se retrouve après l'épisode. Salut Elliot.
Salut.
Comment tu vas?
Ça va et toi?
Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et de participer aujourd'hui au podcast pour les coachs sportifs. Ça fait ultra plaisir de t'avoir. Déjà avant de commencer, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais
Du coup moi c'est Elliot, Elliot Saja sous les réseaux sociaux. Je suis coach sportif sur Paris, coach privé. Je suis spécialisé vraiment sur le coaching à domicile. Je développe depuis très peu de temps le coaching en ligne. Tu peux me retrouver sur Insta, sur TikTok et sur YouTube. Voilà, en gros.
On va en reparler de tout ça. Justement, on va parler de Insta, TikTok, YouTube, sur la stratégie que tu as mis en place aujourd'hui pour développer ton activité de coach sportif. Mais déjà, toi, ton côté, et ça, c'est une question qui est ultra importante pour comprendre justement ce qui t'a amené ici. Mais pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir coach sportif?
Alors, pourquoi j'ai décidé de devenir coach sportif? En gros, moi, si tu veux, je suis un ancien sportif de haut niveau. Je faisais partie, en gros, de l'équipe de France Junior de judo. Okay. Donc, j'ai toujours été passionné par le sport. Puis, je me suis gravement blessé, je me suis cassé des côtes et j'ai jamais réussi à récupérer mon niveau. Donc, je me suis dit que fallait que je me réoriente. Du coup, je me suis réorienté. J'ai fait une licence TAPS, un BPJEPS et puis je me suis réorienté en fait au fur et à mesure vers le coaching. J'ai commencé par les cours co. J'ai bombardé, j'ai fait énormément de concours en salle de sport et tout. J'adorais ça, hein, franchement, faire du step, du LIA, c'était vraiment mon kiff. Et un jour, j'ai une agence de coaching.
C'est très rare, les
coachs. C'est rare, c'est dans l'autre sens.
Les cours co, ouais, tu vois, j'ai kiffé mes cours co, mais en fait.
Mais j'adore toujours ça. Hein, okay. Et j'ai fait même la mention cours co, et je kiffais ça. Je faisais des conventions de freestyle, enfin bref, voilà, j'adorais ça. Et j'ai un jour une agence de coaching qui m'a contacté pour faire un remplacement sur un coaching privé. Okay. Et wow, coup de cœur, quoi. Je suis arrivé chez la personne. J'ai kiffé, mais un truc de dingue, et je me suis dit, bah, en fait, je veux faire ça.
C'est du coaching à domicile?
Ouais, c'est du coaching, okay, à domicile. Mmh. J'ai fait une séance via une agence, et après, j'ai dit, bah, ok, est-ce que je peux travailler avec vous? Ils m'ont dit, ok. Donc, pendant un an et demi, je travaillais avec une agence, et puis après, bah, je me suis développé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je fais que ça, que du coaching privé.
Ok, mais du coup, c'était. Est-ce que déjà, c'est quelque chose que tu avais en tête quand tu étais encore en carrière, de dire après ma carrière? Parce que souvent, il y a le. Pour les joueurs pro, pour les athlètes professionnels, il y a toujours ce truc de se dire, qu'est-ce que tu fais après une carrière? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu avais déjà en tête pour l'après-carrière, ou ça t'est tombé juste parce que tu t'es blessé, tu dis, bah, il faut que je me relève, ou c'est quelque chose que tu avais déjà en tête?
En fait, quand tu fais du judo, tu sais très bien que tu gagneras jamais ta vie en faisant du judo. Donc, tu as toujours en tête le fait qu'il faut que tu fasses autre chose à côté, parce que le judo, c'est pas du foot. Et t'as beau être, ce qui n'était pas mon cas, hein, mais t'as beau être champion du monde, t'as des primes 1000 euros quoi, à l'année. Tu vois, c'est une catastrophe. Donc, tu peux pas vivre de ça, à moins d'avoir des sponsors, d'être comme Teddy Riner et faire de la pub, etc. Ce qui n'était pas mon cas. Donc,
et pour voiture, si tu veux pas.
J'aurais bien aimé, mais j'ai pas le physique. Je pouvais pas de taper du poing et faire peur.
Ouais, c'est vrai que ça aurait été un peu différent.
Ça peut être drôle. On peut essayer si tu veux.
Vas-y, fais pour
moi. Putain, ça va faire pareil. Non, mais en gros, ouais, moi, c'est. Du coup, il fallait forcément que je pense à autre chose. Et j'étais parti, du coup, quand même, pour faire une licence TAPS, mais je m'orientais plutôt vers le professorat. Tu vois, je voulais faire prof de PS et tout. Et finalement, je me suis rendu compte que faire prof de PS et enseigner le sport à des personnes qui n'aiment pas forcément ce que tu leur proposes. Parce qu'il faut savoir que les élèves, généralement, quand ils voient le PS, ça les saoule un peu. Quoi. C'est pas... enfin, moi, je voulais parler à des passionnés. C'est pour ça aussi que je me suis orienté vers le coaching. Quand tu prends un coach, c'est que tu as envie. Ouais. Donc, tu tombes forcément face à une personne qui t'écoute et qui va recevoir ce que tu lui proposes. Donc, il y a un vrai échange.
Okay. Ouais, c'est différent que simplement donner des cours.
Faire 3 tours de terrain. Et puis, c'est un peu le stéréotype, mais c'est un peu quand même...
Ouais, parce qu'on les connaît, les profs de PS aujourd'hui. On les connaît, c'est tout sauf du sport. Et du coup, ça a été quoi? Parce que t'en as parlé un peu, mais là, ce qui se passe, c'est que ta carrière de judoka pro s'arrête. Comment se passe en fait l'arrivée jusqu'au premier client, le parcours que tu as eu en tant que coach sportif jusqu'au premier client que tu as pu avoir?
En gros, je me suis blessé, c'était juste avant ma première année de STAPS, quand j'étais encore junior. Je me suis blessé, j'ai essayé de reprendre. Hein. J'ai repris le judo, mais tu perds en niveau et t'as plus la confiance du coach, t'as plus les gens qui veulent te payer les déplacements et tout. Voilà, tu tombes dans un trou et c'est mort, quoi. On t'enterre très rapidement.
Et t'étais comment mentalement en ce moment-là ?
C'était dur, surtout que moi j'ai toujours eu mon père derrière comme coach qui me poussait, mais à l'excès. Et du coup.
Parce qu'il faisait du judo lui aussi
Non, il a fait du judo grâce à moi, mais il a une ancienne carrière de rugbyman de haut niveau. Il était en équipe de France de rugby, mon père, et fallait que je continue, quoi. Même avec des côtes cassées, fallait continuer. Voilà.
Continue mon gars.
Donc ça a été un peu dur psychologiquement et tout, et au final je me suis pas mal épanoui dans mes années de STAPS, mais je pensais vraiment pas au coaching. Sincèrement, jusqu'à ce que je finisse mes 3 années en STAPS, je pensais pas du tout au coaching. Derrière, j'ai fait une année de transition où j'ai bossé dans une fromagerie pour me payer mes études et faire un BPJEPS. Donc j'ai fait une année de prépa et après j'ai passé un BPJEPS, et même pendant l'année de BPJEPS, je savais que je voulais faire là-dedans, mais je voulais vraiment m'orienter vers les cours co et faire que ça, quoi. Faire des conventions, partir à l'étranger, faire des trucs de STEP et de LIA. Et comme je t'ai dit, un jour, une agence m'a contacté quand j'ai commencé à bosser. J'avais rejoint ma copine sur Paris, parce qu'à la base, moi, j'ai fait toutes mes études sur Nantes.
Okay.
Et du coup, j'ai fait ce fameux test. Et puis, au fur et à mesure, l'agence m'a donné 1, 2, 3 clients. Mais ça s'arrêtait là. Et je faisais à côté énormément de cours co. Puis un jour, j'ai pris le risque, j'ai dit à ma copine, j'arrête tous les cours co, ça me saoule, je veux faire du coaching. Et j'en ai bavé beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Tu m'étonnes parce que jusqu'à aujourd'hui, tu avais fait. À ce moment-là, tu étais concentré sur les cours co, donc tu kiffais ça, donc tu voyais pas autre chose que ça. Et l'opportunité te tombe dessus, mais après, comment est-ce que. Parce que tu as beaucoup de coachs qui restent bloqués sur l'étape. Je reste en salle de sport, je reste en mode confort. C'est quoi, toi, en fait, ça a été quoi le déclic pour te dire je prends mon.
J'y croyais et ça s'est fait en fait très rapidement, mais vraiment plus rapidement que ce que je pensais. Il y a vraiment eu 2-3 mois où je galérais, je pouvais même pas payer mon loyer, c'était vraiment une catastrophe, vraiment une grosse catastrophe, et j'avais du mal à m'en sortir psychologiquement, c'était dur. Et puis d'un coup il y a des clients qui sont arrivés, et puis ça m'a créé un réseau, et à ce moment là j'avais pas encore vraiment Instagram, hein. Et j'ai eu une bonne base d'une quinzaine de clients, ce qui est largement suffisant pour vivre.
Et du coup ces premiers clients là tu les as eus? C'est du bouche à oreille essentiellement, ou c'était des clients que tu avais en cours?
C'était que de l'agence. En fait, c'était okay. J'ai bossé avec 2 agences.
Mais ils prenaient une com, eux, de leur côté. T'étais en statut auto-entrepreneur, j'imagine.
C'est ça.
Et eux, en fait, te prenaient le paiement du client. Et
en
toi,
gros, ils prennent 60% à peu près.
C'est ouf.
Donc,
60%.
Ouais, à peu près 60%. En gros, les coachings, ça coûtait 60€ de l'heure pour eux. Et nous, on récupérait. Il y en avait un, c'était 27,50€, et l'autre, c'est 24. Donc,
je pense de savoir de qui tu parles.
Je pense aussi. Okay. Et en plus, c'est des boîtes qui te promettent énormément que tu vas évoluer avec eux. Enfin, ils te font vachement rêver, tu sais, qui croient. Mais ça se passe jamais. Mais du coup, ça m'a créé une petite base de clientèle qui me permettait quand même de gagner à peu près ma vie, de pouvoir vivre. Par info, on vivait dans 17 mètres carrés avec ma copine à deux pendant 1 an et demi. Donc c'était un peu dur. Mais du coup, j'ai développé comme ça ma clientèle. Et puis, j'ai commencé à avoir quelques clients. C'était les cousins, les frères, les sœurs, etc. Donc, c'était des clients que j'ai commencé à prendre en perso. Sans l'agence. Okay. Et puis un jour, quand j'ai eu quelques clients en perso, j'ai dit aux agences, j'arrête. Et pareil, j'ai refait un coup, j'ai tout lâché et je me suis lancé moi-même solo.
Parce que je sais que quelques agences qui font ça, des fois, ils te mettent des contrats de salaud à te dire que si tu.
Pour les rendre les clients, tu veux dire?
Ouais, exactement.
Moi, j'ai rendu tous les clients. Moi, okay, en plus, c'est pas du tout mon. Enfin, je me mets à la place de la personne, enfin, c'est voler les clients. Enfin, moi, c'est pas du tout mon kiff, quoi. Okay. Puis je préfère me dire que les clients que j'ai aujourd'hui, c'est les gens que j'ai eu par moi-même et pas.
Ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, d'accord.
Mais voilà, et ça a été très vite, et au final j'étais très content parce que j'avais énormément de bons retours, et du coup ça s'est pas mal fait. Et franchement, pendant une bonne année avant les réseaux sociaux, j'ai vécu avec 15-20 clients par semaine. J'avais un peu du temps qui était cool, je gagnais correctement ma vie pour vivre. Et
parce que là on rappelle, c'était que du coaching à domicile.
Ouais, c'était que du coaching à domicile.
Donc il ressemble à quoi ton agenda à ce moment là c'est que t'avais 15 heures à chaque fois par semaine de
ouais,
coaching,
c'est ça. J'avais 15 heures de coaching par semaine, et en gros je faisais 3 heures par jour, 6 jours sur 7, hein. En gros, c'est un peu l'idée, quoi.
Ok, d'accord.
C'est des grosses journées hyper morcelées où tu bosses à 8h puis après à 19h, enfin voilà, c'était
et à ce moment là parce que tu quittes l'agence.
Ouais.
Donc eux te prenaient quand même un billet. Toi, quand tu t'es mis solo, combien t'as commencé à facturer? C'était quoi ton prix pour le coaching?
J'ai fait l'erreur que je pense beaucoup de coachs font, c'est que t'es un peu mort de faim, donc tu veux absolument que le client en signe, et tu penses que moins tu vas lui faire cher et plus il va signer.
Ouais.
Et au final tu te rends compte que c'est pas le cas. Et j'ai commencé, mes premiers clients, je vais facturer 40€ de l'heure, 40-45€ de l'heure, ce qui est pas cher pour la région parisienne.
Paris, ouais.
Et c'est des clients que j'ai toujours.
Surtout que c'est à domicile, hein. Rappelons-le, c'est pas en salle. Hein.
C'est, ouais,
pas,
c'est que du domicile.
C'est pas à la salle de sport où le client vient et que t'es tranquille. C'est aller chez le client.
C'est ça.
30 minutes aller, 30 minutes retour.
Puis bon, je faisais vachement voilà, facilité de paiement. Ils pouvaient me payer en 50 fois. Non, j'exagère, mais tu pouvais me payer à la séance. Tu pouvais me payer comme tu voulais, quoi. C'est un peu la période où, enfin, je pense que beaucoup de coachs passent par là. C'est la période où t'es mort de faim, vraiment, et que t'as besoin de vivre, en fait. Et au final, t'es prêt à tout accepter. Et en fait, c'est cette période-là où faut faire gaffe parce que, en acceptant tout, en fait, tu te décrédibilises énormément, quoi. Parce que le client, il se rend compte, en fait, que t'es prêt à tout et du coup, il en joue. Et enfin, en fait, moi, je pars du principe aujourd'hui qu'un coaching, tu peux pas faire de réduction. En fait, t'es pas un objet à vendre, t'es une prestation de luxe. Et enfin, faut savoir se mettre en valeur, faut savoir le prix que tu vaux, quoi. Et c'est l'erreur, moi, que j'ai fait au début, c'est de vraiment me dire, enfin, j'arrivais pas à justifier le prix de mon coaching. Je me disais, mais ça coûte trop cher, quoi. Enfin, moi, je paierais pas pour ce que je donne.
Ok. Tu vois ? Ok, d'accord. Ok.
Au début, c'était assez difficile de prendre confiance en moi et en fait, en gros, pour t'expliquer, je suis tombé sur un client un jour. Je citerai pas son nom, mais en gros, c'est un mec qui bossait à un grand PDG d'une grosse société de luxe qui m'a apporté énormément de clients. Et c'est cette personne qui m'a donné confiance, qui m'a même dit « je t'augmente, je te paye plus cher que ce que tu me payes ». Et en fait, il m'a dit « mais c'est vachement bien ce que tu fais ». Et avec cette personne, je me suis rendu compte que je valais un peu plus cher et que je faisais du travail de qualité et que du coup, je pouvais facturer plus cher aux gens et ça m'a créé un gros réseau sur Paris.
Bah, ça, c'est cool de tomber sur un client qui est prêt à te payer plus cher, parce que c'est pas tous les clients qui font ça. J'espère que c'était Bernard Arnault. J'espère que c'était tonton Arnault.
C'est pas loin.
Mais tu vois, tu te dis... C'est parce que c'est pas tous les clients qui vont te faire ça. Ils vont simplement te dire, bah, écoute, tu factures tant,
voilà.
Vas-y, je prends, tu vois. Et c'est vrai, encore une fois, c'est une problématique qui revient à chaque fois sur les coachs sportifs qui débutent, comme tu l'as dit. C'est parce que t'arrives en tant que coach sportif, tu commences. Première chose que tu fais, c'est te mettre sur des plateformes de mise en relation.
Oui.
C'est la première chose que tu vas penser à faire parce que tu compares les prix et le problème de certaines plateformes, même si elles font un taf qui est correct, mais tu te dis que t'arrives et le problème, c'est que vu que tu bases tout le monde sur le prix, quand t'arrives en tant que coach sportif, t'ouvres la page, t'as une liste de coachs qui se battent juste sur le prix. Donc t'arrives, donc tu vois des coachs à 30, t'en as qui disent réduction impôt alors que c'est même pas le cas parce qu'ils font pas du domicile, c'est à ne rien comprendre. Et toi, tu regardes ça, je te dis, mais attends, si lui, il est dans mon secteur et qu'il facture 30 balles de l'heure, je vais mettre à 25.
C'est ça. Et puis je vais te dire un truc, on n'y pense pas assez, mais enfin quand tu fais tes formations, souvent on te dit, moi quand j'ai fait ma formation, en tout cas mon BPJEPS, on met vachement en avant les cours collectifs parce qu'ils ont besoin de recruter des gens dans les salles et on te dit que tu arriveras pas en coaching. Et moi je l'ai entendu mais des centaines de fois, on m'a dit mais tu ne vivras jamais du coaching sportif. Et les formateurs qui me disaient ça, hein, et tout le monde autour de moi m'a toujours dit tu ne vivras jamais du coaching, même des coachs qui me disaient c'est impossible, tu arriveras jamais à avoir une clientèle fixe. Et du coup, en fait, quand tu commences avec une agence et qu'on te propose 25 € de l'heure, je sais pas si tu te rends compte, mais 25 € de l'heure, t'as l'impression que c'est énorme, quoi. Vraiment, t'as l'impression que tu vas gagner super bien ta vie.
Ouais, parce que tu sais pas encore qu'il y a l'URSSAF derrière qui va te toquer à ta porte.
Tu te rappelles pas qu'il y a l'URSSAF, que faut que tu payes ton essence, et qu'au final, il te reste plus rien dans la poche, quoi. Mmh. 25 € en tant qu'entrepreneur, c'est pas la même chose que 25 € quand t'es salarié.
Ouais.
Parce que t'oublies aussi que quand tu vas prendre ton mois de vacances en été, y a rien qui rentre. t'as pas les congés payés, quoi. Donc, non, mais c'est vrai que, en fait, quand tu démarres, surtout quand t'es jeune, t'as aucune notion de rien. Surtout quand tu crées une société. Et si t'as pas un appui derrière, quelqu'un pour te conseiller, c'est compliqué. Du coup, t'es prêt à te vendre tout, tu vends ta peau en fait pour...
Mais c'est ouf que les formateurs en école, ils te disent « ouais, tu verras pas du coaching ». Après, tu me diras, eux, ils sont même un peu old school à la limite dans leur façon de penser. Mais c'est ouf que même eux, en fait, quand ils forment des nouveaux coachs sportifs, qu'ils puissent balancer des choses comme ça, quoi.
Tu sais, moi, ma dernière formation, je l'ai validée en 2018. Et en 2018, le coaching privé, pourtant ça fait 4 ans, 2018. Mmh. Ouais. Ah, c'était très... Enfin, ça existait peu, hein. Enfin beaucoup moins. Hein. C'était vraiment des prestations de luxe, ça coûtait très cher. Tout ce qui est déduction fiscale et tout ça, ça n'existait pas. Enfin, il y avait très peu de choses mises en place. Hein. Ça s'est vraiment démocratisé dans les dernières années. Et je pense aussi grâce aux réseaux sociaux.
Ouais. Grâce à Instagram, justement, à un peu « je veux montrer mon corps, je veux montrer mon body ».
C'est ça, exactement.
Et à l'influence qu'ont pu avoir les réseaux sur l'image de chaque personne. Mais ok, donc toi, tu commences à ce prix-là. 45 €, c'est... mais tu t'étais basé par rapport à ce que te donnait l'agence ou c'est... comment tu l'avais déterminé ce prix-là? Tu t'es juste dit.
Je me suis basé sur les prix des agences, mais sauf que eux, ils font des prix de groupe en fait parce qu'ils ont tellement de clients. Je sais pas si t'imagines, mais c'est hallucinant le nombre de demandes de clients que tu reçois par jour, c'est hallucinant. Donc je me suis fixé par rapport à ça alors que ça n'a rien à voir en fait le travail que propose une agence et toi quoi. Donc,
Ok. Et donc tu commences là à avoir ta ta propre clientèle.
Ouais.
C'est quoi que tu leur proposes? Bon, c'est du coaching à domicile, mais tu te déplaces avec ton matos, c'était du sans matériel, c'est quoi que tu proposais?
Alors, je proposais toujours du domicile. En fait, je propose toujours trois options. C'est soit je viens à domicile, soit je viens, on se déplace en extérieur, en fait, dans un parc, ou soit je viens en entreprise. Je me déplace directement dans ton entreprise, t'as un local ou je prends un parking, et puis voilà. Au début, les horaires, je fixais pas trop d'horaires, c'était un peu quand la personne voulait, elle pouvait m'annuler au dernier moment, enfin, c'était un peu voilà, c'est quand tu veux. Plus on fait de séance, mieux c'est pour moi, quoi. Et pour le matériel, j'avais le strict minimum, les élastiques, voilà. Savoir qu'au début, tous mes coachings, je les faisais, je me déplaçais en trottinette électrique. Ah ouais. Ça a duré un an.
Mais tu faisais que sur Paris
Non. J'allais même jusqu'à Mairie des Lilas, je faisais 20 bornes en trottinette électrique. j'avais pas les. J'avais...
Ouais, en fait, t'es arrivé là-bas, tu l'as rechargé parce que sinon tu rentrais pas, quoi.
C'est ça, et puis en un an, j'en ai pété 3 les trottinettes. Tellement, je faisais des milliers de kilomètres avec les trottinettes, t'imagines pas. Et je pensais que c'était rentable, mais alors pas du tout. Et j'avais pas les moyens de m'acheter un scooter. Mmh. Aujourd'hui, je roule en scooter, ça me change la vie, quoi.
Ouais, tu m'étonnes, ouais. Déjà, ça va un petit peu plus vite.
Quoi que tu me diras. Donc, quand t'es sur les pavés avec ta trottinette.
Ouais, c'est la pire sensation du monde quand tu, quand tu vas sur les champs en trottinette électrique. Je pense que
c'est clair.
Tu le fais une fois, pas deux. Putain, tu m'étonnes. Trottinette électrique, c'est un truc de fou.
Et j'ai fait, ouais, aussi les 6 premiers mois que du métro. Du métro. Mais c'est fin. Aujourd'hui, si je fais une rétrospective sur ce que je faisais avant, j'avais une heure et demie de transport des fois entre chaque client, c'était hallucinant, je referais jamais ça de ma vie, quoi.
Tu m'étonnes, parce que là, t'as le retour d'expérience, tu te dis, ah ouais, attends, je vais pour une heure de coaching où je suis payé 45 balles, mais pour y aller, en fait, j'ai une heure et demie aller-retour.
C'est ça, mais j'avais besoin de travail et je suis quelqu'un qui est très buté et je voulais plus retourner sur les cours collectifs et je voulais plus après bosser avec les agences. Je me suis dit, tu te débrouilles, tu vas y arriver. Ça a porté ses fruits.
Ouais, ça justement, on va y venir. Ça, tu me diras que ça a porté ses fruits. ok, donc tu commences. Ça dure combien de temps le coaching à domicile que tu proposes? Parce qu'aujourd'hui, t'en proposes plusieurs. Du coup, on va arriver au type de coaching que tu proposes aujourd'hui. Mais rien que le domicile, dure combien de temps?
Au début, c'était une heure. Je fixais vraiment un cadre une heure. Voilà, c'était des coachings des séances d'une heure. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est une séance. En fait, je dis aux gens, enfin, moi, mon but, c'est qu'à la fin de la séance, la personne ait le sentiment d'avoir travaillé. Et je suis pas arrivé sur ma montre. Si ça dure une heure et demie, ça dure une heure et demie. Ça dure 45 minutes, ça dure 45 minutes. Peu importe. Voilà. Souvent, ça dure moins qu'une heure. Parce que c'est logique, la personne sera crevée rapidement. Et moi, mon but, c'est pas. Enfin, j'essaie d'être le plus souple possible. J'ai pas envie, comme je te dis, d'être rivé les yeux sur ma montre, que la personne te dise à la minute près. Enfin, c'est pas le but, quoi. Quand tu fais du coaching, ta séance, t'as juste envie de te dépenser. Et si, bah, au bout de 35 minutes, t'as fait ce qu'il fallait, bah, c'est fini, quoi.
Et c'est quoi tes offres de coaching aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes du domicile toujours?
Ouais.
Et quoi d'autre comme
Je fais du domicile extérieur entreprise, comme je t'ai dit, et puis je commence là à développer depuis, on va dire, ça fait 3-4 mois que je me suis vraiment penché très sérieusement sur la question du coaching en ligne, que je développe. Et j'utilise Jimki comme outil d'ailleurs. Pas de placement de produit. Hein.
On se demande qui c'est Jimki.
Ouais, franchement, je me demande qui c'est. Et en fait, j'avais commencé il y a un an, j'avais essayé il y a un an de faire du coaching pendant le confinement. J'avais pris 3 clients. Et c'était genre juste pour moi une torture, parce qu'en fait fallait faire des fichiers PDF, les trucs étaient pas compatibles, machin, enfin c'était fini. Franchement, créer des programmes sur PDF, ça te prend 3 heures et pour ce que tu gagnes au final, ce que tu factures, enfin c'est voilà, c'est difficile, puis pour le suivi, enfin c'est très compliqué, enfin c'était pas un truc
C'est pour ça que en fait la plus grosse problématique que nous on a eu en arrivant, en fait, en toquant chez la porte des coachs sportifs, c'est de se dire que déjà ils disaient que c'était long, parce qu'en fait, ils disaient que, compliqué, que ça prenait du temps, parce qu'en fait, en tête, ils n'avaient que le PDF. Ils disaient qu'il n'y avait pas de suivi du client, bah, en fait, ce qui était vrai, parce que si tu lui envoies un PDF et que le client ait fait ses coachings de son côté, bah, évidemment que toi, tu n'as pas de suivi là-dessus. Et en fait, c'est pour ça que tu avais beaucoup de coachs qui disaient au début, c'est pas du vrai coaching.
Oui, c'est ça. C'est exactement
parce
ça.
Parce qu'en fait, ils n'avaient pas la sensation de vraiment accompagner leur client.
Ouais, parce que t'avais que du texte, puis même fallait te prendre en vidéo sur chaque exercice, puis envoyer une petite vidéo. Enfin, c'était
ou bien une vidéo YouTube possible. De quelqu'un que
voilà, c'est client ça. Ne exactement, connaît pas. Exactement. Et enfin, même tu sens. Enfin, moi, je me sentais pas légitime. Et c'est même moi qui ai arrêté les coachings au bout d'un mois avec tout le monde. Et les gens, même, enfin, jamais un retour d'expérience. Même si les gens te le disent pas directement, tu sens que ils kiffent pas ce qu'ils font, quoi. C'est ils ont un programme. Enfin, ils pourraient aller sur internet, taper le nom d'un programme et le trouver de la même manière. Ouais. Tu vois, l'expérience client, c'est quand même très important, parce qu'en soi, un coach, ça reste un coach, et on est tous normalement censés être plus ou moins compétents, et on est tous censés être capables de proposer la même chose à un client. Ce qui va changer, c'est l'expérience du client, c'est le suivi du client. Donc la personne, tu peux lui filer le même programme qu'un autre coach, ce qui va le différencier, c'est le feeling qu'il a avec le client et l'approche que tu vas avoir avec lui. Si tu as une approche plutôt un peu de barbare ou plutôt une approche un peu plus médicale, un peu plus posée, si tu écoutes le client, si tu prends le temps de lui répondre sur WhatsApp, enfin, voilà, tout ça, c'est tout ce qui fait la différence, moi, pour moi.
Bah, c'est un truc que les... Ou encore une fois, il y a beaucoup de coachs qui ont du mal à se mettre ça en tête que, en fait, pour la plupart, ils pensent qu'ils vendent simplement des programmes. Ce que tu disais tout à l'heure en début de podcast, c'est qu'il faut prendre conscience qu'en tant que coach, tu changes en fait la vie des personnes qui étaient en face
c'est
de toi.
C'est ça.
Tu vois, et te dire que, comme tu l'as dit, à un certain moment, tu fais ton BPJEPS, tu fais ça, peu importe, un programme, tu sais faire un programme. N'importe quel coach, à un moment donné, sait faire un programme, comprendre ce qu'il a donné. Maintenant, qu'est-ce qui différencie un coach qui facture 100 balles de l'heure et un coach qui facture 45 balles de l'heure? C'est l'expérience en fait qu'il va donner à son client, tout simplement en fait. Il y a que ça qui change. Et t'en as beaucoup qui comprennent pas que quand t'es dans le service, tout ce qu'il y a à côté, tous les détails, et c'est ce qu'on disait avec Vincent pendant le podcast, j'en ai parlé tout à l'heure, mais quand il dit que tout se joue sur les détails.
Bien sûr.
En fait, c'est vraiment ça. Quand tu regardes le luxe, par exemple,
c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais faire la comparaison. Quand tu vas acheter un sac chez Chanel, bon, c'est pas le donner à tout le monde, hein, mais t'as l'expérience, quoi. Ouais. C'est même tout ce qui est dans le packaging, ça peut paraître ridicule, mais t'as l'impression d'acheter un truc qui vaut de l'or. Ouais. Alors qu'en fait, ça vaudra la même chose qu'un truc que tu vas acheter chez Zara.
C'est la même chose.
Mais t'as l'expérience client.
Qui va avec.
Voilà, c'est ça.
Et les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher.
Bien sûr.
Pour l'expérience.
Mais nous-mêmes, tu vois, en tant que coach, enfin, je paierais pas. Enfin, je pourrais. Enfin, toutes les personnes pourraient aller chercher un programme sur Internet. Sans retour d'expérience, tu vois, ouais. Mais ils paieraient pas pour ça. Enfin...
Ouais, en fait, ce qu'ils achètent, c'est la globalité, c'est l'expérience en elle-même. Tu vois, si aujourd'hui.
Et je le dis souvent, même, excuse-moi, je te coupe, mais je le dis même souvent à mes coachings à domicile. Au bout de 6 mois, les gens acquièrent de l'expérience, ils pourraient très bien faire les séances qu'on fait ensemble tout seuls.
Ils savent le faire. Ils ont compris justement comment tu les coaches.
Mais ils le feront pas parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui est derrière pour les pousser, pour les booster. Et c'est le coaching, c'est ça, le mot coaching, ça veut dire je suis là pour accompagner la personne. Donc.
Et du coup, tu proposes le coaching à domicile, donc ça peut être maison,
ouais,
parc
et... Tout ce qui est Paris et petite couronne, sachant que là, la petite couronne, je suis en train de plus en plus d'éliminer parce que je commence à me recentrer vraiment sur Paris pour essayer de limiter les déplacements.
Et justement, les clients que tu as aujourd'hui, est-ce que toi, tu as défini une niche, parce qu'on parle beaucoup de niche, de trouver sa niche, et en plus, dans l'épisode qu'on a sorti la semaine dernière, je disais en rigolant que tous les chemins mènent à Rome parce que Charlie qu'on a reçu, il en a rien à foutre des niches. Alors là, tu lui parles de niche, tu lui parles de strat marketing, il en a rien à foutre. Mais c'est-à-dire, est-ce que toi de ton côté, est-ce que tu avais une cible en particulier que tu voulais viser? Si on prend l'exemple de Vincent ou bien de Nash Befi, peu importe, par exemple, lui il visait du coaching haut de gamme, donc des entrepreneurs, des gens, des cadres supérieurs. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu t'as défini au début ou bien
De base, pas du tout. De base, pas du tout. Je pense que la niche, elle se crée toute seule, en fait, au final. Moi, comme je t'ai dit, j'ai eu une expérience avec un client dans le luxe qui m'a créé un cercle, en fait, autour du luxe. Donc, des grands PDG de société, c'est en gros 50% de ma clientèle. Je me déplace enfin voilà, je fais beaucoup de choses dans des endroits où j'aurais jamais cru aller de ma vie. C'est des gens qui ont des fortunes démesurées, mais c'est pas moi qui choisis. Je me suis pas dit, tiens, je vais aller bosser avec des gens qui sont riches. Non, pas du tout. Et aujourd'hui, en fait, la courbe est en train un peu de s'inverser. C'est-à-dire que maintenant, je reçois beaucoup de demandes de gens qui ont sur Instagram, mais c'est plutôt des gens qui ont 30-35 ans, qui ont des salaires tout à fait normaux, mais qui sont prêts à
investir dans leur corps, dans leur santé.
Voilà, c'est ça. Et du coup, la clientèle change, tu vois. Mais moi, j'ai pas de clientèle prédéfinie et je vais pas évoluer mes tarifs en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Je reste sur des tarifs fixes et je pense que tu définis plutôt les tarifs en fonction de tes compétences que de la personne que tu as en face de toi, quoi.
C'est quoi les tarifs que toi t'appliques aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je suis à 70-75 euros de l'heure.
Ok.
Les seuls trucs qui varient, c'est en fonction du déplacement. Moi, je rajoute aujourd'hui 0,33 euros par kilomètre.
Okay.
C'est juste pour dire, tu vois, c'est rien, mais c'est juste pour dire que voilà, si je me déplace, je rentabilise un petit peu quand même le déplacement. Voilà, il faut compter 70-75 euros par séance.
Ok, par séance. Et tu sais quoi, tu l'as mis en forme de pack ou
je fais des packs, ouais. Okay. En fait, je fais des packs 10, 20, 50 et 100 séances.
Ok, et tu réduis à chaque fois, c'est quoi les packs?
Un petit peu, ouais. Okay. En gros, tu montes à 75 pour le plus cher et tu descends à 70 pour le moins cher.
D'accord, ok.
Voilà.
Ok, cool. Ok. Et pour les coachings en ligne, vu que tu as lancé ça récemment, comment tu t'es positionné dessus?
Alors en fait, j'ai fait deux formules. J'ai fait une formule sans suivi et une formule avec suivi. En fait, c'est un peu le même principe que Nage. On fonctionne de la même manière, sauf que lui, enfin, on va pas repartir sur Nage, mais en gros, moi, j'ai un programme personnalisé que je renouvelle tous les mois.
Okay.
En gros, il y a aucun suivi. J'envoie un programme à une personne. Elle m'envoie à la base, je lui envoie un questionnaire personnalisé. Elle répond à mon questionnaire et derrière, je lui envoie un programme.
D'accord. Okay.
On renouvelle tous les mois. Si elle a plus envie de renouveler, il n'y a pas d'engagement. Elle s'arrête quand elle veut sur toutes les formules. Et puis il y a la formule avec suivi. Et là, pour le coup, bah, je suis la personne régulièrement. On fait des suivis mensuels, hebdomadaires. Enfin, c'est un vrai suivi, un vrai coaching, quoi. C'est juste qu'il n'y a pas de présentiel, quoi.
Ouais, ok. Et justement, comment tu as défini les tarifs?
Au niveau des tarifs, on est à 39€ pour les programmes et on est à 100€ par mois pour le suivi.
Ok, voilà. D'accord. Okay.
Pour le coup, je pense que ces tarifs vont être amenés à évoluer.
Bah, c'est ce que je me disais, voilà. En fait, c'est que ça reste quand même des tarifs qui sont ultra accessibles dans le coaching en ligne.
Ouais.
Tu vois.
Et je pense que moi, je ferai évoluer. Enfin, à long terme, je pense que je vais faire vraiment évoluer le coaching avec suivi, certainement à la hausse, parce que j'ai envie aussi de m'impliquer plus dans mon suivi. Aujourd'hui, je ne peux pas m'impliquer suffisamment parce que j'ai trop de coaching à domicile, donc je n'ai pas le temps. Mais je veux garder ces programmes personnalisés accessibles à tout le monde parce que c'est vraiment le but de ma page de base, c'est que moi, j'aimerais pouvoir proposer du sport de manière accessible à tout le monde.
Mmh.
Et j'aimerais que ça reste. J'aimerais qu'il y ait toujours, dans toutes mes prestations, une formule qui est accessible à tout le monde.
Okay, donc voilà. Ouais,
sans pour autant que l'expérience soit totalement dénigrée. Tu vois. Je ne veux pas juste balancer un programme pourri qui est fait à tout le monde. Je veux vraiment que la chose soit personnalisée pour la personne. Quoi.
Mmh. Ok. Non, mais c'est intéressant d'avoir ce. De toute façon, c'est ce qu'on parlait, on en parlait tout à l'heure en off, de se dire les différentes étapes du coaching où tu commences à faire du coaching en physique jusqu'à que tu vois en fait les limites que ça peut avoir sur ton temps, sur toi. Ensuite, tu passes sur du coaching en ligne, puis du coaching personnalisé à distance, puis du coaching, enfin du automatisé sans suivi. Mais du coup, ouais, parce que le 100€ par mois, juste pour donner une fourchette, tu vois, aujourd'hui, sur les coachs qu'on peut avoir sur Gymkey, le moins cher de tous, il est à 90 balles par mois, et le plus cher, il est à 1000 balles par mois.
Ouais,
tu vois.
Ouais.
Et t'en as qui sont à 250€ par mois, t'en as qui sont à 400€ par mois, t'en as qui sont à 150€ par mois.
Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je me sens pas légitime à faire plus parce que, je m'implique, pour l'instant, je suis pas suffisamment impliqué là-dedans pour pouvoir. Voilà.
Mais c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place.
C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en place, ouais. Mais pour le coup, je ne ferai pas comme j'ai toujours fait, comme un buffle à tout arrêter les coachings d'un coup pour me lancer dans le coaching.
Voilà,
je vais essayer d'y aller un peu plus progressif et c'est pour ça que je commence tout doucement à développer la chose.
Parce que ce qui est cool et souvent ce qu'oublient les gens avec le coaching à distance, même personnalisé ou non personnalisé, c'est que justement, on parlait de tes futurs projets plus tard, mais c'est que tu peux faire ça de n'importe où.
Exactement.
Pour commencer. Et en plus de ça, ce que certains oublient, c'est que en fait, c'est du revenu récurrent mensuel.
C'est ça.
C'est qu'en fait, c'est du revenu qui va revenir tous les mois. Tu vois, c'est plus en fait. Demain, en fait, tu vas en coaching à domicile.
Il te prend une séance, mais il peut très bien arrêter à la fin des séances.
Exactement.
Voilà, c'est ça.
Alors que là, t'es sûr que tu vas avoir un montant qui va tomber
tous les mois. C'est vrai.
Donc, tu peux te projeter, investir dans ton business, faire plein de choses à côté, et tu te dis, bon, j'ai quand même ça qui va rentrer tous les mois, et je le sais que ça va rentrer.
Voilà, t'as une constante, ouais, c'est vrai.
Et surtout, par rapport à ce que toi, tu veux faire plus tard, tu peux bosser de n'importe où.
Exactement.
Donc, ça, c'est plutôt cool. Parmi les clients que tu coaches aujourd'hui, est-ce que tu as commencé pour le coaching en ligne, par exemple, est-ce que ça s'est fait directement en poussant ton Instagram, ou c'est parce que tu as des clients à domicile qui voulaient en fait te voir plus souvent et qui, du coup, tu leur as proposé en ligne? Parce que généralement, comment est-ce que les coachs sportifs passent du coaching physique au coaching en ligne? C'est tu as des clients et en fait tes clients ils aimeraient avoir des séances avec toi entre guillemets 3-4 fois par semaine,
ouais.
Sauf qu'ils n'ont pas le budget pour payer 3 fois 75€ et du coup ils te demandent est-ce que tu peux me faire un programme, et ça commence comme ça. Est-ce que ça a commencé comme ça pour toi?
Moi c'est vraiment dissocié pour le coup, okay. Hein, c'est vraiment d'un côté j'ai les coachings, j'ai personne, enfin dans tous les clients que j'ai 35 clients à peu près en domicile, j'ai personne en ligne.
Ok, d'accord.
Voilà. Et puis de toute façon c'est quelque chose que je propose gratuitement. Une personne, si elle a besoin d'un programme, je proposerai forcément gratuitement, parce que pour moi quand tu payes une prestation qui est aussi chère que 70€ un cours, tu dois avoir derrière un suivi qui est pas, enfin moi je viens pas juste chez la personne pour lui donner son cours et repartir, je suis là aussi pour la suivre derrière, enfin c'est coaching de vie quoi. Donc si elle a besoin d'un programme parce qu'elle part en vacances, je vais lui faire son programme.
Ok,
tu vois ce que je veux dire? C'est voilà. Et okay. Tu m'as posé une question par rapport au coaching. Je ne sais plus ce que tu m'as demandé.
C'était juste en fait savoir s'il y avait des clients qui avaient des clients que tu avais à domicile justement, que tu avais repris au coaching en ligne.
En gros, tous ceux que j'ai en ligne viennent d'Instagram. Okay. Vraiment. Et j'ai une demande qui est beaucoup trop élevée pour ce que je peux faire aujourd'hui. C'est,
Tu m'étonnes. Bah justement, on allait y venir. C'était la prochaine question qui arrivait. Parce que la question qui arrivait déjà de base, c'est comment est-ce que tu trouves tes clients? Aujourd'hui, toi, tu prospectes pas.
Je prospecte plus du tout.
C'est eux qui viennent à toi.
Et j'ai prospecté énormément. D'ailleurs, je vais te raconter une petite anecdote qui était très drôle.
Nous, on aime les anecdotes ici.
J'étais tellement en galère au début que j'ai été sur un site qui fait des flyers et je me suis commandé 10 000 flyers. j'en mettais partout avec ma copine qui m'aidait, on en mettait sur toutes les voitures et tout, ça servait absolument à rien, j'ai jamais eu un seul retour. Et je me suis posté devant les Galeries des Champs, et à l'époque j'étais vraiment, j'avais pas confiance en moi, tu vois, j'étais un peu timide et tout, et je suis resté pendant une heure devant les Galeries des Champs, et j'ai pas distribué un flyer parce que j'ai jamais osé demander à quelqu'un.
Le mec est resté là, il a pas bougé.
Et ma copine elle était à l'autre bout, elle me regardait, elle avait trop de la peine pour moi, ça se voyait. Et j'ai essayé pendant longtemps, j'ai prospecté comme ça, mais j'ai jamais eu un seul retour sur tous mes flyers.
Et parce que justement, les premiers clients que tu as eu, c'est du bouche à oreille, des contacts, ouais, des relations. Et mine de rien, t'en as beaucoup qui sous-estiment la force de ça. L'erreur que font les coachs sportifs, c'est que t'en as beaucoup, en fait, quand ils commencent, ils se disent je vais aller trouver la solution miracle, je vais me créer un tunnel de vente, faire des publicités Facebook, et ça va me générer du.
Ça marche pas, ça.
Tu vois, et tu peux pas leur en vouloir, je peux pas leur en vouloir, non, même non, si non. En fait, je les pousse à dire. Les gars, c'est pas comme
c'est
ça
pas
que ça
dans
marche.
C'est pas ça, dans cet endroit-là.
Exactement. Les pubs Facebook, ça vient à ton niveau, par exemple.
Déjà, toi, donne du contenu. Déjà, donne avant de recevoir. C'est, de toute façon, ça fonctionne comme ça dans la vie aussi. Hein. Il faut que tu donnes, il faut que tu sois. Tu vas être dans le dur au début. De toute façon, tout n'arrive pas tout cuit. Hein, mais il faut donner avant de recevoir. Enfin, vraiment, moi, c'est la leçon que je retire de ce que j'ai vécu. C'est au début, tu vas donner beaucoup, tu vas rien recevoir. Et après, on va te donner beaucoup. C'est vrai, hein, ça fonctionne comme ça. Tunnel de vente et tout ça. Ça fonctionne peut-être très bien, mais moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. Et en tout cas, pour le coaching, ça ne fonctionne que au bouche à oreille. Et ça va dans un sens comme dans l'autre. Tu peux très très vite monter, comme tu peux très vite redescendre.
Mmh. Voilà. Ouais, parce que si t'as du bouche à oreille, mais que c'est pas le bon bouche à oreille, t'es un peu dans la merde.
Et moi, parce que moi, j'ai grâce aux agences, en fait, si tu veux, vu qu'on remplaçait certains coachs et tout, on était en relation avec d'autres coachs, et je me suis fait des amis coachs qui se sont cassés la tronche du jour au lendemain parce qu'ils ont fait un peu n'importe quoi. Mmh. Trop sur son tel pendant les séances, trop ça. Et ils se sont retrouvés du jour au lendemain, 5-6 clients qui ont arrêté parce que.
Ils en avaient marre, quoi.
Bah, c'est des réseaux, quoi. S'il y en a un qui part, les autres ils partent, tu vois. Mmh. Et ça va très très vite. Hein.
Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis, mais parce que. Et c'est ce qu'on dit tout le temps, tu vois, c'est ce qu'on répète. Parce qu'en même temps, il y a 20 000 choses qui sont trouvables sur Internet. On te dit, tiens, la solution miracle, c'est ça, ça, ça. Tu crées ton tunnel de vente, tu fais des pubs et tu vas avoir des clients. Mais même les clients que tu vas avoir de cette façon-là, est-ce qu'ils vont rester?
Non.
Parce que tu n'as pas créé de. En fait, tu n'as rien apporté.
C'est ça, c'est ça.
Dans un premier temps, pour que ces clients-là puissent rester. Et tu en as beaucoup, en fait, parce qu'ils veulent aller. Après, tu peux comprendre, comme tu l'as dit. En fait, tu commences, oui, oui. T'as la dalle, t'as faim.
Exactement. Et t'as même tellement faim. Je suis désolé, je te coupe encore. Non, c'est moi, c'est vraiment.
C'est ton podcast. Régale-toi.
c'est vraiment mon expérience personnelle. Moi, quand j'allais chez les clients au début, j'avais peur qu'ils arrêtent. J'avais peur. Et en fait, du coup, j'ai essayé de leur faire signer avec le plus gros pack possible parce que j'étais pas serein sur les dernières séances. Je me disais, mais comment je vais lui dire qu'il va falloir me repayer? Comment je vais lui dire que. Et j'avais vraiment peur. Et du coup, j'ai essayé de faire tellement bien que je faisais mal, en fait. Mm. Et c'est dans cette période-là de ma vie de coaching que je perdais le plus de clients. Parce que je pense que je les saoulais. J'arrêtais pas de leur demander au fait, hein, est-ce que tu reprendras les séances. C'est vraiment, j'étais vachement comme ça parce que j'avais besoin de vivre, quoi. Et j'avais vraiment, comme je dis, j'avais la dalle, quoi, au début. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est presque eux, en fait, qui me rappellent. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, ça fait un peu l'avantardise de dire ça, mais je suis serein. Je sais que demain, je perds un client. Dans un jour, j'en ai un nouveau parce que Instagram, j'ai tellement de demandes que. Et du coup, j'ai une approche totalement différente. J'arrive à mes coachings, je suis détendu et en fait, je suis là juste pour. Pour montrer mes compétences et pas pour en faire trop. Et
Mais je pense que le fait d'avoir en fait ce Instagram qui génère de nouveaux clients, je pense que tu es beaucoup plus confiant, beaucoup plus serein. Et ce qui fait que le client, en fait, il en sent plus, il se dit, mais attends, mais j'ai pas envie de perdre mon coach parce que il y a 20 000 personnes derrière.
C'est ça, voilà. J'ai même des gens aujourd'hui qui attendent, quoi. Je sais que déjà qu'il y a des gens qui me disent, j'ai des clients qui vont rater en janvier en 2022, quoi, parce qu'ils partent à l'étranger. J'ai déjà des clients qui m'ont dit, tu me réserves la place, quoi. Mm. Je trouve ça hallucinant. Avant, je me pliais vachement aux horaires des gens. Maintenant, c'est les gens qui se plient à mes horaires. Alors que c'est pas moi qui dis, plie-toi à mes horaires, j'ai juste ça de dispo. Tu veux ou tu veux pas. Voilà, c'est. Sans être. Enfin, voilà, les choses s'inversent, en fait, quand t'es un peu plus confiant en toi. Je pense que vraiment, le métier de coach, il faut vraiment savoir se valoriser et avoir confiance en soi et surtout mettre des limites. Parce que tous les métiers de service, surtout dans les services de luxe, les gens ont tendance des fois à penser que toi, t'es à leur service, en fait. Mmh. Et du coup, t'es un peu rien pour eux. Donc, t'obéis simplement à ce qu'ils te proposent et vu que toi, t'as la dalle, tu fais tout ce qu'ils veulent, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire sur l'approche.
Oui,
c'est...
Clairement, t'en as beaucoup qui tombent dans ce piège-là parce que voilà. T'as un client qui leur dit, mais attends, mais moi je suis pas dispo aujourd'hui, est-ce que tu peux venir à Marle-la-Vallée pour mon coaching?
Et puis c'est des gens qui t'annulent. Tu vois, moi au début, on m'annule au dernier moment, je disais, c'est pas grave, t'inquiète, on se verra demain. Maintenant, voilà, je précise bien, tu me préviens 24 heures à l'avance, ok, si tu me préviens pas 24 heures à l'avance, je facture la séance. Sauf si voilà, il se passe un truc parce que. Voilà,
ça pète à la gueule sur le périph', j'ai pas facturé.
Ça peut paraître très dur, je peux paraître genre dur et proche de mes sous, tu peux penser ça, mais c'est juste que. C'est mon métier, c'est pas qu'une passion le coaching, je vis de ça. Et si demain t'as 4 clients qui m'annulent, je perds beaucoup d'argent, quoi. Mmh. Et les gens ils se rendent pas trop compte de ça, mais il faut.
C'est ultra intéressant parce que tout ce que tu viens de dire là, c'est de grosses problématiques qui sont encore d'actualité. Tu vois, t'as beaucoup de coachs, mais après, c'est compréhensible parce que tu vois, et comme tu l'as dit, tu commences.
T'as besoin, ouais, t'as besoin.
Donc tu te dis, j'ai pas envie de perdre ce client-là, j'ai pas envie de faire. Mais quand tu prends un pas en arrière et que tu regardes la vision complète de ce que tu es en train de faire, tu te dis, mais j'ai besoin de vivre. Il faut qu'on puisse me respecter aussi quand même un minimum et que je puisse cadrer tout ça, c'est-à-dire que le mec je suis pas à son service. Si demain en fait il m'annule le dernier moment, bah, c'est normal que je facture parce que j'avais prévu ça dans ce que moi j'ai à faire pour mon investissement, pour peu importe.
Mais quand t'as besoin de vivre, tu penses qu'à ça. Tu penses qu'à ça et je pense que t'as beau avoir le recul suffisant et la maturité suffisante, bah t'as besoin qu'il y ait de l'argent qui rentre et t'as besoin de vivre simplement, donc bah t'as besoin de clients, donc t'as besoin de les garder et du coup tu vas tout faire pour les garder en fait. C'est juste que tu les gardes pas de cette manière en fait. Tu penses que c'est en étant...
Tu penses que c'est bon, voilà. Mais en fait...
Mais en fait c'est tout l'inverse. Voilà, les gens ils aiment bien un peu qu'on leur rentre dedans, qu'on leur mette des règles, qu'on...
Mais c'est comme tout, hein, c'est comme les relations. Et en fait ils veulent qu'on se... Il faut se faire désirer. Hein,
c'est le coaching, c'est une prestation de luxe. Et les gens... ils payent pour une prestation de luxe et même des fois moi je me suis rendu compte quand tu les fais pas, c'est un peu bizarre hein, ce que je veux dire, mais quand ils payent, enfin quand c'est pas trop cher, ils voient ça comme cheap. Et du coup ils vont pas prendre avec toi et c'est un peu bizarre, moi j'ai du mal avec avec ça, mais surtout qu'on est à Paris c'est un peu plus mais comme
c'est,
ça
c'est de partout et ça tu te dis et ça c'est quelque chose que quand tu le comprends tout en fait change dans ton approche du business de ce qu'il y a. Si tu comprends l'exemple de Apple, Apple ils valent une couille gauche pour pas, alors que oui. T'as des produits Android qui sont beaucoup mieux.
Bien sûr.
Et quand tu te dis que t'arrives et que tu vois que par exemple nous chez Jimkey on est plus cher que la concurrence, effectivement, parce que derrière en fait on se place, on veut se placer, on veut avoir un branding qui donne envie, tu vois.
C'est évolué.
Donc c'est quand tu le comprends ça et tu dis ok bah en fait les clients, les gens aujourd'hui quand ils payent. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de coachs qui ont fait l'erreur par exemple, plusieurs fois de donner des programmes gratuits exemple, pendant le confinement, etc. En fait, tu tires une balle dans le pied parce que le mec, il va se dire bah, le truc-là, je l'ai gratuit, mais demain, quand tu vas le voir, il va pas. Il t'a pris un programme à toi gratuit, mais demain, il va prendre un coaching à 150 balles chez un autre parce qu'il aura acheté en fait cet apport de valeur que le type va vendre, cette valeur perçue, parce qu'encore une fois, tout est une question de valeur perçue.
Et on a beaucoup de mal quand on fait un métier de service à se donner une valeur parce qu'on a l'impression que. On est méchant en vrai. C'est vraiment un sentiment de culpabilité de te dire, je vais payer quelqu'un quoi. Alors que, c'est comme vendre un produit. Enfin, tu vends des prestations. Il faut pas l'oublier. Et enfin, vraiment au début. Enfin, en tout cas, moi, mon expérience. Je pense que c'est vraiment le cas de beaucoup de coachs. T'as du mal à te vendre hein, parce que tu penses que c'est cher quoi. Ouais. Et toi, au début, t'as pas forcément les moyens de payer ce que tu vends. Donc, tu vois ce que je veux dire, le rapport que t'as par rapport à ça.
Ouais, tu dis, moi, je peux pas l'acheter, donc personne peut l'acheter, tu vois. Alors
voilà,
que
c'est ça.
T'as un mec en face, il va te dire, mais. Mais augmente tes prix, gamin. Qu'est-ce que t'es en train de me faire?
C'est ça.
Non, c'est fou. Et
puis t'acceptes qu'on te paye 3 mois, 4 mois en retard. Enfin voilà, c'est t'acceptes tout en fait. Et du coup, tu te dis qu'en acceptant pas, bah, tu vas passer pour quelqu'un de vachement carré et tout, que ça leur plaira pas. Et au final, moi, depuis que je suis beaucoup plus carré, bah, les gens, en fait, ils comprennent. Et ça leur paraît tellement logique.
Ouais.
Tu te dis, mais ah ouais, en fait, pendant 2 ans, j'ai fait ça.
Alors que j'aurais pu faire comme ça. Et
c'est ça.
C'est fou. Et ça, tu le comprends justement, parce que tu vois, là, on est à Station F, t'as beaucoup de boîtes par exemple. J'ai mon mentor moi ici qui me disait je suis obligé de facturer à minimum 50 000, 100 000 voire même plus parce que sinon on me prend pas en sérieux parce que t'as des grosses boîtes en face et si t'es pas à minimum à 6 chiffres, il va te dire bah en fait non, c'est à dire que ton produit il est cool mais c'est bizarre que
ouais,
tu
c'est
sois
ça, voilà, c'est exactement ça, c'est bizarre, il y a quelque chose derrière quoi, il y a ouais.
C'est un truc de fou. Mais du coup, pour rentrer dans le vif du sujet et de comment est-ce que toi, tu fais l'acquisition de tes clients aujourd'hui, parce qu'on parlait beaucoup d'apport de valeur, donner pour recevoir, bah, ton Insta, c'est que ça. C'est que donner. Et pour les coachs qui écoutent ou qui regardent et qui font 10 publications et qui disent ça marche pas, il y a 643 publications sur le compte de Elliot.
J'en ai archivé pendant au moins un an et demi. Donc je pense qu'il y en a au moins 1000-1200.
Tu vois, donc, parce que tu en as beaucoup qui vont venir balancer 25 posts, deux même, pas d'apport de valeur, deux, et dire ça marche pas.
Ouais, et puis après, ils vont faire leur tunnel de vente. Et puis,
tu vois,
ça, ils vont faire des pubs boostées à 300 euros sur Facebook.
Et, et qui mènent vers un tunnel de vente avec des faux chronos en mode il te reste 24 heures pour prendre le coaching avec un prix barré. Bref, ça, c'est des.
Je n'ai jamais dépensé un centime sur Instagram.
Et tu sais quoi, les plus gros coachs qu'aujourd'hui qu'on a sur Gymkey, ils n'ont jamais dépensé ils n'ont jamais mis de sous sur les publicités. Et ça, quand tu le remarques, tu as beau le dire, t'en as quand même en fait qui soit qui te croiront pas, soit qui diront mais alors, le mec il doit faire des choses,
C'est ça.
c'est fou. Mais tu vois, aujourd'hui tu as 121 000 personnes qui te suivent sur Instagram, tu as pas mal de beaux coachs sportifs qui te suivent également dessus. Mais du coup, comment est-ce que toi tu t'es lancé dessus? Parce que justement en off, tu me disais que tu n'étais pas quelqu'un
De réseaux
de
sociaux à la
très
base.
réseau social à la base. Comment est-ce que tu en arrives à te dire il faut que je me mette sur Instagram? Et comment est-ce que toi, en arrivant, en ne connaissant rien aux réseaux sociaux, parce que c'est la problématique des coachs sportifs qui arrivent aujourd'hui, ils n'y connaissent absolument rien. Comment est-ce que tu t'es lancé dedans et comment est-ce que tu dis bah.
En fait, c'est simple. Je vais encore parler de ma copine, hein. Ça tout tourne autour de ma copine, mais.
Ça veut dire que tu as fait un bon
Mais.
choix.
Et ça fait 4 ans de ça, du coup, je me suis lancé sur les réseaux. C'est. Non, enfin, je sais plus de les années. Bref, c'est février 2018 où je me suis lancé. En fait, moi, je suis quelqu'un qui adore écrire. Je suis très passionné par l'anatomie, tout ce qui est physiologie, etc.
T'as pas de blog encore?
Non, du tout. Mais c'est pas du tout.
T'en auras pas?
Non,
Ok,
je
d'accord.
pense pas. Après, tu me diras peut-être que c'est pas bien, mais.
Bah, en fait, je me dis que si t'adores écrire, parce que le trafic des plateformes dont on parlait tout à l'heure, des agences, il vient d'où? Il vient essentiellement en fait du référencement naturel. Si tu
Oui,
regardes, si tu recherches, tu vois à chaque fois les premières qui sortent. Et je pense que je sais très bien de quelle plateforme tu parles, mais c'est cette plateforme qui apparaît en premier.
c'est vrai.
Tu
Oui.
vois, tout le temps. Donc en fait, si toi t'adores écrire et que parce que eux souvent ce qu'ils font, c'est qu'en fait ils délèguent l'écriture. Parce qu'en fait, ils veulent juste optimiser le SEO, ils veulent optimiser le référencement, et souvent le contenu, il est pas aussi quali que si c'était vraiment une personne qui se mettait derrière. Donc ce que tu peux faire, c'est que si toi t'adores écrire, un article de blog est arrivé en top référencement sur coach
Ouais,
sportif en
c'est
ligne, ou
sûr.
bien ça peut
C'est
clairement
vrai.
te générer, bah, je pense que t'en as déjà pas mal, mais encore plus de choses
C'est vrai qu'aujourd'hui,
là-dessus.
c'est. Bon, pour en revenir du coup à la création du compte, comme je te disais, j'adore écrire. Et un jour, j'ai fait une infographie. Je me rappelle même de cette infographie qui est d'ailleurs absolument dégueu. Je l'ai laissée sur le compte. C'est la seule que
Ok,
j'ai laissée il y a très longtemps.
c'est la première ou pas?
Ouais, c'est la toute première.
Ah,
Elle
faut
est toute
faire mieux.
violette. Et je crois que c'était genre des trucs à savoir sur le corps, genre que le foie était le plus grand organe du corps humain. Enfin, des
Ok.
trucs comme ça, quoi. D'ailleurs, ce qui est pas vrai. Bref, c'est
Ça disait des conneries en
une
plus.
infographie que j'avais fait sur Paint. Je te jure, je l'ai fait sur Paint,
Sur Paint.
l'infographie.
Mais là, plus je scroll, plus je vois la progression
Ouais, il y a eu une
des designs.
évolution.
Ouais.
J'ai commencé avec Paint, après j'ai fait Photoshop, et après je suis sur Canva
Ok.
aujourd'hui. Je pense comme les trois quarts des gens. Parce que Photoshop, tu prends 3 heures pour infographie. Alors c'est très très beau, hein, mais
Mais
voilà.
tu peux faire quasiment la même chose avec Canva
C'est ça.
en très peu de temps. Et c'est un outil que tu vois, t'as beaucoup de gens qui veulent. Parce que Canva, en fait, pour le maîtriser, t'arrives au début, tu peux être perdu. Tu vois, quand
Oui.
t'arrives dessus,
Enfin, quand tu sors de
même.
Photoshop, ça va, hein,
Oui,
franchement.
c'est vrai que
Parce que.
si tu fais Photoshop avant, tu m'étonnes. Mais tu vois, t'en as beaucoup, parce que tu vois, la plupart des coachs sportifs, ils n'ont pas l'habitude d'utiliser des logiciels, etc. Donc ça peut imposer, mais ça vaut le coup. Ouais, cette chose à savoir, je la mettrai dans la vidéo. Cette
T'as vu,
chose
elle
à
est belle,
savoir,
hein.
ouais. Le texte, il est solide, tu vois. Parce que dès le début, c'est de l'apport de valeur, et même sur le texte, tu vois. Mais je la mettrai, c'est drôle. Parce que t'as pas fait, t'as écrit à la main, en fait,
Ouais, j'ai
le.
tout écrit avant. Ouais, c'était génial. Et du coup, bon, très sincèrement, pendant une bonne année, mon compte Instagram, bon,
Il s'appelait Fitness Facts France.
Fitness Fact France, après je me suis appelé Fitenit, et après je me suis dit, bon, c'est quand même mon compte, donc je vais m'appeler Eliott Saja, quoi.
Ok.
Enfin, nom, prénom, quoi.
Ok.
Classique. On revient aux bases. D'ailleurs, je me suis fait éclater par l'algorithme Instagram quand j'ai changé de
Ah
nom.
ouais?
J'ai dû perdre, sans déconner, je crois que j'ai perdu au moins 20 ou 30 000 abonnés en changement de
Putain.
nom. Je me suis fait défoncer. En l'espace d'une semaine, je me suis fait
Mais
éclater.
c'est pourquoi? C'est parce qu'il reconnaissait pas ton.
Je sais
Il connaissait pas
pas.
Elliot.
Je sais pas, j'ai eu un. Je devais avoir 1 000 désabonnements par jour, c'était hallucinant. Je me
Oh,
suis
t'as dû
fait.
péter un câble.
Je me suis demandé si je n'allais pas rechanger, et puis au final,
Ok.
ça s'est restabilisé, et ouais. Et ouais, du coup, mon compte pendant un an et demi, il a pas du tout fonctionné. Vraiment pas. Mais en fait, je le faisais pas pour ça. Je le faisais parce que j'avais envie, comme tu dis, d'apporter de la valeur. Et en fait, je m'en servais d'appui pour mes clients. Et je leur dis, bah, allez voir sur mon compte, et vous allez voir, il y a plein de petits tips. Puis j'ai commencé à faire R7, etc. Puis j'ai commencé à discuter avec des comptes qui venaient de se créer comme moi. Et je me rappelle, on était trois. Il y avait Super Trainer. Je sais pas si tu connais un
Ouais,
petit
je
peu.
connais, ouais.
Il y avait Fat Secret France. Et il y avait moi. Et je t'assure, il n'y en avait pas d'autres, à l'époque en tout cas, qui
Super Trainer,
avaient.
il dévoile pas son identité. Je sais pas si c'est lui
Non.
ou un autre,
Non,
ouais.
il dévoile pas son identité.
Parce que
Fat Secret France, oui, mais.
je le cherchais pour le podcast et j'arrivais pas à trouver son. C'était avec Flo, on le
Après,
cherchait.
moi, je sais qui c'est. Si tu
Ok.
veux, je
Ouais,
les contacte. Il n'y a pas de souci.
mais je pense que si jamais il se montre pas sur Insta, il va pas peut-être
Ouais,
pas
je sais
venir sur le
pas. Ouais.
podcast. Moi, si jamais tu veux
Tu me
venir,
floutes, tu me
l'invite
floutes.
à. J'ai le truc flouté, Anonymous.
C'est ça, c'est ça.
Tu as goût de retourner, quoi.
Je te jure.
Mais du coup, on était trois comptes et c'était cool parce qu'on vachement on échangeait vachement, on se donnait des avis sur nos posts et tout. Et puis bah, on a tous explosé, tu vois. Fat Secret France, c'est le pire, il est presque à 400K. Enfin, c'est on a tous énormément monté. Et pendant un an, moi je te dis, j'étais en dessous de 10K. Vraiment, c'était pas une cata, mais ça montait tout doucement, quoi. Et puis un jour, j'ai fait un post sur le Nutella. Je m'en rappelle très bien, j'ai fait un post sur le Nutella et ce post, je crois, il m'a fait gagner 6 ou 7000 abonnés. Juste un post.
Un post.
Un post.
Donc un post, ça peut vraiment être game changer, ouais. Quoi.
Et j'ai badé, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, j'avais. À l'époque, j'avais les notifs.
C'est repartagé ou c'est parce que.
Ah ouais, c'était hallucinant. J'ai encore les stats. Je crois que je devais avoir 10 ou 15 000 partages.
C'était un post classique, il n'y avait pas les Reels à ce moment-là. Il y avait...
Non, okay, c'était un post classique. Okay. Et mais à l'époque, le logo Instagram était différent aussi. Et j'avais les notifs Instagram. Pour la petite info à l'époque, parce que j'avais beaucoup de notifs, donc j'avais laissé les notifs sur mon téléphone. Mon téléphone, il avait bugué tellement il y avait de likes, de commentaires, ça m'avait fait halluciner, quoi. J'avais l'impression que c'était un truc de dingue qui me tombait dessus. Et en fait, j'ai profité de ça, et je suis passé de 10 000 à 60 000 en l'espace de, je sais pas, 2-3 mois. Vraiment, okay.
Et en mettant du contenu comme ce que tu fais maintenant,
c'est-à-dire
que
je faisais que des infographies à l'époque. Que des infographies, j'ai commencé à faire des vidéos sur le premier confinement. Parce que je me suis dit toujours, apport de valeur, ça va faire du bien aux gens de pouvoir faire du sport. Puis moi, ça me fait du bien de me bouger un peu aussi. Mmh. Donc,
tu m'étonnes.
Donc j'ai fait les IGTV et j'ai commencé les reels il y a pas très longtemps, il y a peut-être 6 mois, j'ai commencé les reels parce qu'on m'a dit que c'était bien pour pour Instagram. Mmh. Voilà. Donc, et puis ça m'a plu de faire des recettes. Du coup, je kiffe. Je fais des petites recettes et tout et ma copine, elle est contente. Voilà, et en gros, j'ai explosé vraiment jusqu'aux 100 000 abonnés, ça a pris à peine un an. Vraiment, en l'espace d'un an, je passais 10 000 à 100 000. Puis là, bah, tranquillement, ça monte, ça continue à monter tout doux.
C'est le mec de Open Classroom, non, c'est pas lui.
De quoi?
Non, j'ai juste tombé sur une photo sur ton profil Instagram, je me demandais si c'était le gars de Open Classroom. Mais c'est pas, non, ok. Parce qu'il lui ressemble beaucoup au fondateur de Open Classroom, un client que tu as eu. Mais du coup, parce que tu vois, c'est les infographies. Tu vois, tu as beaucoup de coachs sportifs qui refusent de se lancer sur les réseaux ou de. Bah, Eric, on avait reçu juste avant, je pense que ton épisode sera diffusé juste après le sien. Mais qui disait il se lance pas sur les réseaux parce que ça prend énormément de temps, parce que c'est énormément de travail. C'est quoi ton retour, toi, là-dessus, au début et maintenant?
C'était très dur, hein, et ça a même été très conflictuel encore sur ma vie, même de couple en général, parce que je passe énormément de temps pour rien. C'est-à-dire que pendant un an et demi, presque deux ans, je gagnais 0 centime d'Instagram. C'est-à-dire que je gagnais vraiment rien, mais même pas, j'avais pas d'apport de clients, rien. C'était que dalle, que du contenu. Il y a vraiment eu un moment où il y a eu une bascule, et où en fait, ça a vraiment été un engrenage. C'était très très vite, hein, où j'ai eu beaucoup de demandes, et j'ai eu d'un coup de la légitimité, parce que je pense que j'ai passé les 100 000 abonnés, et pour les gens, c'est un gage de légitimité. Et puis arrivé sur Instagram, il y a eu plein de comptes qui se sont développés, qui ont commencé à copier les infographies énormément. Des comptes d'ailleurs aujourd'hui qui ont beaucoup monté, qui ont exactement les mêmes infographies que moi, mais juste avec un design différent. Et en fait, tout ça, ça m'a été hyper bénéfique en fait. Parce que du coup, les gens en fait se rendaient compte au fur et à mesure que moi mes dates étaient antérieures, du coup, ils allaient sur mon compte et ça me donnait des abonnements, ça me donnait la légitimité. Et en fait, je suis un peu aujourd'hui qualifié un peu le compte. Enfin, en tout cas, les gens me le disent souvent que je suis un peu le compte. Différent des autres. Enfin, je fais pas le même contenu que les autres. Alors pourtant, je propose des infographies comme les autres. Hein.
Ouais.
Mais j'essaie toujours de me démarquer. Ça m'est jamais arrivé de m'inspirer sur des comptes d'autres personnes. Tu vois, j'essaie toujours de faire en sorte que mes infographies soient différentes.
Ok.
Tant pis, on me copie derrière, mais en fait.
Oui, t'es copié.
Quand on me copie, c'est hyper bénéfique pour moi. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est hyper bénéfique pour moi. Donc.
Et au début, ça te prenait combien de temps de faire un post et comment est-ce que tu gelais le post d'unité là? Je sais pas si c'est lui ou pas.
Avec les orangs-outans, j'avais une belle photo d'orangs-outans.
Ouais, c'est bien lui. Parce que
c'était moche, hein. Oh là là, je faisais des infographies, c'était moche.
Il y avait un orangs-outan, un rhino et un tigre. C'est ça. La déforestation. Ouais, c'est vrai que t'es pas ouf.
Je dois avoir 1000 likes, hein. C'est rien du tout. Hein.
1500.
Mais, voilà, mais pour l'époque, pour moi, c'était oufissime.
Bah,
quoi.
Les derniers posts, en fait, je pense que ça a découlé après, les gens ils ont dû regarder ton profil, mais ça tournait autour de 600, 500.
Ouais, mais ça, ouais, c'est après, je pense que les gens sont venus liker parce qu'à l'époque je devais faire du 100 likes par post, okay. 100-200. Et ouais. Je te dis, ce post là vraiment ça a été genre le tremplin, quoi. Je me suis dit,
et ça te prenait combien de temps, toi, de faire un post à cette époque là
Franchement, un bon 3 quarts d'heure pour faire un post. Vraiment, c'était. J'y mettais du cœur, tu vois. Je faisais tout proprement sur Photoshop. Ça me prenait énormément de temps, quoi. Enfin, en plus, je sais pas du tout maîtriser Photoshop, tu vois. Ne serait-ce pour faire des tableaux, bah, je prenais des barres noires et j'étirais les barres noires et tout. Tu vois, c'est vraiment le galérien, quoi.
Et tu faisais quoi à cette époque-là? Est-ce que tu faisais un post à chaque fois par jour ou bien est-ce que
Je faisais un post, même des fois 2-3 posts par jour. Genre, vraiment, j'étais à fond. Plus j'en faisais, mieux c'était. Et dès que je faisais un post, en fait, je le publiais, ce qui était ridicule. Je prenais aucune avance. En fait, si j'avais fait 3 posts en avant, je publiais 3 le même jour. Je pensais que ça allait me rapporter.
C'est la question que j'allais te poser sur l'organisation que t'as eue pour les posts, ok.
Archaïque, totalement, quoi. Genre, j'ai publié le plus possible, en fait. Vraiment, dans ma tête, c'était faut publier. Et c'était devenu un peu n'importe quoi. Puis après, je me suis un peu calmé. Et au fur et à mesure, tu prends la maturité et tu te rends compte que ça sert à rien de publier tout le temps, en fait. Et justement, créer un peu l'envie aussi. crée le besoin, les gens ils ont besoin d'attendre aussi.
Ouais, ok.
Puis bon, à un moment, bah, tu peux pas avoir 30 000 publications différentes.
Clairement. Et aujourd'hui, c'est quoi le... Comment est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu t'es structuré pour... Parce qu'encore une fois, ils ont pris un niveau au-dessus. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu prépares tes posts et tu prépares tes carousels, tes inspi... Comment est-ce que tu bosses justement ton Insta?
En fait, toute la semaine, je vais lire, je me note des idées dans mes notes sur mon téléphone. Et souvent, bah, j'ai largement de quoi faire pour mes posts. Je prépare mes posts de la semaine, voire plus, des fois pour 10 jours.
Tu fais ça quand? Est-ce que tu t'es fixé un moment sur ton agenda de dire, ok, là, je prépare mes posts ou...
Ouais, souvent, c'est le samedi après-midi où je fais ça.
Okay.
Et bah, maintenant, je travaille avec ma copine qui travaille vraiment officiellement pour moi. Et du coup, elle me planifie tous mes posts sur Facebook. Donc ça, c'est okay. Vraiment hyper cool. Et du coup, j'ai rien à faire, juste à attendre que le post se publie et à répondre aux commentaires. Du coup, j'ai du temps pour répondre aux commentaires, j'ai du temps pour échanger avec les gens plus que pour créer. Et il y a juste les reels, je les prépare un peu au feeling. Les reels, c'est un peu la part de moi du compte. C'est si j'ai envie de mettre une photo de moi, je vais mettre une photo de moi. En fait, je mets des choses pour moi plus que pour les gens. Donc, si j'ai envie de faire une recette, j'en fais une. Si j'ai pas envie, j'en fais pas. Quoi.
Okay.
Au début, avant, sur mon compte, j'osais pas en fait, parce que dès que je mettais des photos, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, dès que je mets une photo de moi ou des choses perso, je perds les abonnés.
Ah ouais?
Pas pour x ou y raison, parce que je pense que les gens sont sur mon compte à la base pour les infographies, mais
justement moi le après, c'est un feedback externe que j'ai. Mais j'ai l'impression que pour moi ça solidifie ton audience entre guillemets, parce que
solidifie, mais en fait je pense que tu perds beaucoup de gens qui sont là juste pour les infographies.
Okay,
en fait
d'accord.
Du coup je pense que c'est des gens qui te suivent, et quand enfin ils te suivent mais genre vraiment de loin, ils suivent plein de comptes d'infographies, et du coup sur leur feed ils voient une photo d'un gars qu'ils connaissent pas, parce qu'ils sont jamais été voir. Du coup ils se disent bah je connais pas, je me désabonne. Voilà.
Okay, d'accord.
Et j'ai toujours ce retour, hein. Je perds au moins toujours 200 abonnés à peu près quand je mets une photo de moi ou de moi et ma copine.
Okay.
Alors que j'ai un bon engagement sur la photo. Tu vois, j'ai beaucoup de commentaires, j'ai beaucoup de messages.
Parce que les gens, ils aiment bien en fait
avoir
ce côté humain.
Et puis même moi, tu vois, si tu veux, souvent on me dit que je dois respecter certains codes parce que j'ai beaucoup d'abonnés. Mais moi, j'ai jamais demandé en fait avoir autant d'abonnés. Alors c'est génial, je suis super content, hein, je crache pas là-dessus. Mais j'ai envie de me faire plaisir, c'est mon compte. Ça restera toujours mon compte. Et si demain j'ai envie de faire autre chose que les infographies, je ferai autre chose que les infographies. Je fais vraiment pas ça pour le business, Insta à la base. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Parce que souvent les gens créent Insta pour le business, alors qu'en fait il faut que le business se crée grâce à Insta.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Tu fais quelque chose, tu te donnes, comme je te dis, et après, s'il y a, tant mieux. Alors, moi, en tout cas, j'ai toujours vu les choses comme ça. Je me suis pas dit je crée Insta pour me faire de l'argent. Enfin, c'est pas. Voilà.
Et tu fais combien de posts aujourd'hui par semaine?
7. 7
tous les jours.
Tous les jours. Sauf le dimanche, donc 6.
Okay. Et du coup, ils sont préparés à l'avance pour le coup.
Ouais.
4
infographies, 2 reels. Toujours, j'essaie de respecter un code. Je sais pas si t'as vu, j'essaie de
faire un truc assez propre. Milieu,
ouais.
Moi, je me suis toujours là-dessus. Donc, au début, je suis sur le compte de Jim Key, tu vois, c'est propre.
Ouais.
Mais à un moment donné, j'ai envie de faire un reels. Du coup, je le mets et du coup, ça nique toute la grille. Bon, tant pis. Mais ouais, j'ai bien respecté ta grille là. Tu t'es pas chié. Bon, on voit les gens qui maîtrisent. Mais ok, donc 6 jours.
Sauf voilà, bah, quand je pars en vacances, des fois je publie plus. Enfin, si je m'impose rien. C'est-à-dire que si j'ai envie de partir une semaine en vacances et décrocher, bah. Je dois rien à personne en soi. C'est pas. Voilà, les gens ils payent pas pour mon compte, donc c'est pas comme s'ils avaient. Voilà. Cet été, je suis parti un mois en vacances. Pendant un mois, j'ai mis 0 publication.
Est-ce que tu te fixes quand même un minimum de story par jour? Rien. Tu peux laisser ton compte inactif?
Ouais, en fait, quand j'ai envie, je fais. Voilà. Puis ce qui est bien, c'est que maintenant, vu qu'il y a ma copine, bah, des fois, elle publie des trucs qui sont intéressants, tu vois. Elle va faire des petits quiz, des petits trucs qui animent, qui rendent dynamique le compte. Quand moi, j'ai pas forcément envie de le faire, parce que, voilà, des fois, j'ai pas forcément envie de publier, parce que j'ai envie de passer ma journée tranquille. Voilà, c'est. Voilà. Et des fois, j'ai envie de partager ma journée de coaching. Donc, bah, je me dis, allez, je prends le téléphone le matin, dès 5h du mat, et toute la journée, je partage toute ma journée de coaching. Et les gens, étonnamment, ils adorent ça.
Ouais, bah, c'est
dingue.
Bah, comme moi, je t'avais envoyé le premier mail la première fois, c'est que j'étais tombé en fait, sur une journée, t'as mis ton premier coaching, tu t'es filmé sur le scoot, t'es arrivé, t'as montré chez tes clients.
Et au début, j'ai fait ça, je me suis dit, les gens, ça va les saouler. Parce qu'en fait, j'avais vraiment fait ça, encore une fois, pour moi, parce que j'ai envie de partager. En fait, les gens, ils ont kiffé, quoi. Et je me rends compte que le terme influenceur est existant, en fait. C'est que les gens vraiment. Maintenant, ils connaissent mon chien, mon chat. Enfin, c'est hallucinant. Ça prend des dimensions. Tu vois, je suis allé à l'île de Ré là, pour un petit week-end avec ma copine. À l'île de Ré, sur les pistes cyclables, on s'est fait arrêter 2 fois parce que des gens me connaissent. Et je trouve ça hallucinant, quoi. Je trouve ça dingue. Et tout le temps, quand on va quelque part, de plus en plus, on me reconnaît. C'est toujours gentil. Hein. C'est toujours très gentil. Hein.
Oui, c'est ça. T'as pas la communauté non plus.
Non.
Et les mecs qui vont t'arrêter.
Je trouve ça génial parce qu'en fait, je fais que des infographies en soi. Donc, on voit très peu ma tête quand même sur mon compte. On la voit c'est peu. Et on la voit en story. Donc, ça veut dire que les gens sont vraiment impliqués, quoi. C'est le nom de mon chien, de mon chat, ma copine. Enfin,
ça cool. Quoi. Et du coup, le Insta aujourd'hui, parce que tu vois, t'as, pour les coachs sportifs qui se lancent, encore une fois, si vous vous lancez, c'est l'apport de valeur en premier. avant de recevoir. Mais du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu reçois de ce compte Instagram, toi, ton côté ?
Tu parles financièrement directement ou
Non, dans le sens où, qu'est-ce que ça te génère pour ton business aujourd'hui, ce compte, le nombre de clients ?
Ah oui, ouais. Aujourd'hui, ça me génère un flux, un trafic genre vraiment énorme. C'est-à-dire que mes demandes de messages, c'est plus de 100 messages par jour. C'est vraiment un truc
c'est énorme.
Que je peux pas gérer. Au début, je répondais à tous les messages. Maintenant, je peux plus. Donc, j'essaie vraiment de le faire. J'essaie toujours de mettre au moins un petit cœur, tu vois, pour dire que j'ai répondu. Et quand je me rappelle de ça.
Tu tapes le truc, le message, quoi.
Voilà, c'est ça. Okay. J'essaie toujours. Parce que tu vois les gens qui sont habitués à toi et qui te répondent souvent à tes messages. Ces gens-là, j'essaie quand même de les prioriser et de leur dire que, bah voilà, je suis là. C'est pas parce que j'ai plus d'abonnés aujourd'hui que je pense pas à eux, quoi. Mais c'est toujours compliqué. Hein. Et je pense que si un jour, parce que j'ai de l'ambition, si un jour j'ai 1 million d'abonnés, je pourrais pas répondre à tout le monde. Enfin, ce qui est logique, quoi. Mais je veux pas tomber dans le travers aussi où j'automatise tout. C'est pas ce que je veux. Du coup, en termes de trafic, coaching à domicile, aujourd'hui, voilà, je t'ai dit, je perds un client, j'en retrouve 10. Quoi.
Ouais, c'est t'es full là-dessus.
Je suis full pour la prochaine année. Quoi. C'est vraiment, j'ai au moins une vingtaine de clients derrière qui attendent d'avoir des créneaux. Et les gens attendent. Et j'ai essayé d'engager quelqu'un en freelance, de le former. J'ai même présenté à des gens et les gens veulent pas, en fait, ils veulent que ce soit moi qui coach. Donc,
c'est ça qui est compliqué quand t'arrives. Ouais, après, parce qu'au final, tu vois, le... Parce que peut-être ça peut être un autre pan de ton activité ou te développer de cette façon, mais de franchiser entre guillemets.
Mais ça
ton...
ça fonctionnera pas pour moi. Je le sais, j'ai essayé et parce que les gens et c'est pas du tout encore une fois de l'avantardise. Hein, c'est que les gens ils veulent moi parce que c'est moi qu'ils connaissent et ils font un peu partie de mon quotidien parce qu'ils me suivent. Et du coup ils se sentent.
Tu vois ce que je veux dire, parce que des fois quand t'as un mentor entre guillemets et que tu vois son contenu. Et que quand on te propose de le contacter et qu'au final il te redirige vers une autre personne, tout de suite tu as ce sentiment de dire mais non, mais
c'est ça.
C'est toi que je veux, mon pote.
J'ai des gens que j'ai en coaching aujourd'hui, ils me disent ça fait un an que je te suis, j'ai jamais osé te demander. Et aujourd'hui je les ai en coaching à domicile. Je trouve ça génial parce que ça fait un an que les gens me suivent et ils ont attendu un an avant de me demander. C'est-à-dire que, enfin, moi je trouve ça. Moi,
c'est fou, non, en vrai c'est fou.
C'est un truc, ça m'en. Enfin, j'adore parce que moi mon objectif ce serait de pouvoir permettre à tout le monde de faire du sport. Et j'ai toujours dit, moi mon grand rêve c'est que tout le monde puisse faire du sport, que t'aies ou que t'aies pas d'argent. Donc j'aimerais proposer des prestats à tout le monde. Bref, je m'étale.
Non, mais justement, on va y revenir ça sur ce que tu veux faire plus tard en tant que coach sportif. Mais c'est intéressant de voir justement ce que peut apporter en fait.
Instagram, ça me rapporte partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça me rapporte mes clients en ligne. Je peux même pas accepter pour l'instant trop en ligne. Je me suis limité, je dois en avoir 5-6 sur des clients en ligne parce que je peux pas. Et puis, j'ai pas envie de faire un travail de mauvaise qualité. Donc, je préfère en faire quelques-uns et que les faire mal. J'ai le coaching à domicile comme je te disais qui est plein et puis je reçois beaucoup de demandes de marques aussi, énormément, j'en refuse énormément aussi, mais par contre voilà, aujourd'hui il y a des marques avec lesquelles je travaille et je suis rémunéré à juste titre, je trouve. Il y a beaucoup de coachs qui osent pas dire qui font des partenariats rémunérés et je vois pas pourquoi, parce que on crée du contenu gratuit, c'est normal qu'on puisse être rémunéré d'une manière ou d'une autre et privilégier faire la promotion de marque tant que tu n'obliges pas. Tant que tu crois en cette marque et que tu n'obliges personne à acheter, pour moi, il n'y a rien de mal. C'est vrai qu'il y a vachement un bashing quand même là-dessus aujourd'hui. T'es vite catégorisé d'influenceur négatif quand tu vois. Là, récemment, j'ai fait un post pour des antennes passives pour le téléphone. T'y crois ou t'y crois pas, tu vois, je force personne, mais les gens, tout de suite, c'est dans l'agressivité. C'est ouais, t'es payé, je sais pas combien, des millions pour ça. Non, mon gars, j'ai pas payé des millions, si seulement.
Mais en soi, comme tu l'as dit, si c'est un truc que toi tu kiffes et que tu valides,
c'est ça.
Là où c'est problématique, c'est que si tu fais une sponsor pour un truc que qui est une arnaque derrière,
voilà,
ou
c'est
là,
ça. Voilà, c'est,
là c'est assez problématique, tu vois, un truc où tu sais qu'il y a une polémique dessus.
Je suis d'accord,
Mais si c'est un truc que toi tu kiffes et qui peut bénéficier à tes clients, tu vois, c'était Kant justement qui en parlait avec nous, justement, c'est pour les sponsors qu'il a pu recevoir. Lui, tu vois, c'est quelqu'un qui a toujours refusé des sponsors, sauf pour les produits que lui-même
consomme. Ouais. Oui, mais c'est légitime. C'est légitime. Et tu vois, récemment, là, moi, je fais gagner là, un voyage à l'île de Ré pour deux personnes. Enfin, j'ai accepté la sponsor, quoi. Je ne vais pas refuser. Enfin, c'est logique. J'ai été invité. Enfin, voilà. Et on reçoit des reproches pour ça. Alors qu'en soi, je fais. Enfin, en tant qu'influenceur, tant que c'est pas de l'arnaque, comme tu dis, tu fais gagner des choses aux gens et tu leur donnes de la réduction. Enfin, voilà. C'est...
Tout le monde est gagnant.
Tout le monde est gagnant,
c'est ça. C'est pas un truc pour lequel tu crois pas ou bien où c'est une douille derrière.
Puis les gens se rendent pas compte que c'est le résultat en fait de. Tu vois, là, il y a 600 publications. 600 publications, tu multiplies par 45 minutes par publication. T'imagines le nombre d'heures que j'ai passé sans être payé. Tu vois, faut penser à ça aussi. Enfin, c'est normal, je trouve qu'on. Enfin, aujourd'hui, le métier d'influenceur commence enfin à être reconnu et on commence vraiment à être rémunéré à juste titre. Et je pense que c'est normal. Mais plus on a des communautés qui sont grandes,
et plus dans cette communauté, t'as des personnes qui comprendront dans tous les cas.
Ouais, et puis t'as vraiment des gens qui sont haineux, quoi. C'est assez hallucinant.
Ouais, ça je suis curieux de savoir comment c'est.
Ah, je reçois des messages violents, vraiment, des fois.
Les mecs, ils te suivent, ils t'envoient des messages violents, quoi.
Ah ouais, c'est.
c'est un concept, ça.
C'est assez dingue, mais vraiment violent, vraiment de la violence. C'est déjà arrivé à ma copine de recevoir des messages aussi. Enfin, c'est. Alors que quand il réfléchit, j'ai une petite communauté par rapport à certains.
Clairement. Voilà.
Aujourd'hui, 100 000 abonnés, c'est pas commun, mais c'est plutôt commun quand même. C'est pas non plus.
C'est pas inatteignable.
Voilà,
si
c'est ça.
Le bon job.
C'est ça.
Et du coup, aujourd'hui, comment ça se passe sur le process d'onboarding de tes nouveaux clients? C'est-à-dire que moi, que ce soit pour le client à domicile et le coaching en ligne, si moi, demain, je te contacte, comment ça se passe l'onboarding avec toi? Comment est-ce que tu m'accueilles? Comment est-ce que tu mets les choses en place?
Je te différencie du coup domicile, ouais. Parce que ça se passe pas pareil. Une personne qui me contacte pour un coaching à domicile, elle m'envoie un message privé. Je le vois, tant mieux. Je les vois pas tout le temps, malheureusement. Donc quand je tombe dessus, j'essaie toujours de répondre, même si je peux pas lui accorder un créneau. Et je lui donne mon numéro. Moi, je serais très cool. Hein. On se tutoie tout de suite. J'aime pas qu'on se voit. Moi, ça me saoule. J'aime bien qu'on soit cool. Bon, après, si la personne vraiment, je la vouvoie, je vais la vouvoyer, tu vois. Mais enfin, ça arrive jamais. Hein. Et puis, on se passe un petit coup de fil. Je lui demande un peu ce qu'elle attend de moi. Et puis, je lui dis, bon, ça te dit, on se rencontre la semaine prochaine. On se fait une petite séance comme ça d'essai. Sache que moi, il y a peu de coachs qui font ça, mais moi, ma séance d'essai, c'est une séance où on se pose, on s'assied, on discute. Voilà. Et parce que moi, je pars du principe qu'un coaching à domicile, c'est hyper important que le feeling passe, que la personne ait confiance en moi, qu'on apprenne à se connaître un peu, qu'elle me raconte un peu sa vie. Voilà, c'est ça. Je rentre dans son intimité, quoi. Du coup, on discute pendant une heure et c'est un truc hyper important, je trouve. Et du coup, ça met les gens en confiance. Et puis, derrière, s'ils ont envie de prendre un pas, qu'ils prennent. S'ils n'ont pas envie, voilà.
La première séance d'essai, elle est facturée ou pas?
Au début, non. Maintenant, ouais, je facture comme une séance classique.
Ok, d'accord.
Ouais. Ouais, parce que je me déplace et souvent la séance dure plus qu'une heure. On discute et puis voilà. Puis même du coup, ça engage les gens, si tu veux, quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'ils vont, s'ils payent, ils vont pas te faire venir pour rien. Parce qu'au début, je faisais beaucoup ça. Quand Instagram a commencé à se développer, je faisais pas payer les séances d'essai et je me suis déplacé partout dans la France, partout à Paris. Et du coup, les gens en fait, c'était de la curiosité pure en fait. C'était des gens, ils savaient très bien à la base que je venais, mais c'était juste comme ça, juste pour me voir, pour... c'est cool, tu vois, mais enfin, je peux pas faire ça tout le temps, quoi.
Ouais, tu m'étonnes.
Le bénévolat, ça rapporte pas.
Ça rapporte pas tout court.
Donc, ouais, voilà. Et puis, honnêtement, je crois que ça m'est jamais arrivé de faire une séance d'essai et que derrière ça débouche pas sur un pack.
Ouais, donc, t'as un taux de conversion à 100%, quoi.
Ouais, et je te dis, justement, je pense que le fait que les gens payent, ils savent que, sauf gros couac ou manque de feeling, je vois pas pourquoi ils prendraient pas de séance. Ils savent qu'ils me font venir pour ça.
Et c'est quoi tu poses des questions sur la première séance? Qu'est-ce que tu cherches à savoir, toi?
Moi, je cherche à savoir les objectifs de la personne. Je cherche aussi surtout à savoir son passé, un peu si elle a eu des troubles obsessionnels compulsifs, des choses que moi, dans lesquelles je voudrais pas me mouiller. Ça m'est déjà arrivé de pas accepter les clients parce que je considère que c'est plus dans la sphère médicale et je préfère que la personne aille voir quelqu'un et après revienne vers moi quand elle. Enfin voilà, je veux pas être responsable de l'aggravation de certains problèmes chez certaines personnes, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, clairement. Ouais.
Voilà, donc.
Si c'est pas ton rôle, c'est pas ton rôle. Si
jamais... Voilà, c'est ça. J'ai des personnes qui me contactent des fois pour l'anorexie et qui veulent au final que je leur apprenne à manger et tout ça, mais moi je peux pas faire ça. Moi je suis là pour 99% du temps faire du sport. Je peux te donner des conseils alimentaires. Moi je suis pas diététicien, même si j'ai beaucoup de connaissances, je fais pas de programme alimentaire pur à une personne. Voilà, je lui donne des conseils alimentaires.
Okay.
D'ailleurs, légalement, je suis pas censé avoir le droit de le savoir. Ça.
Ouais, de donner des programmes. Tu peux donner que des conseils.
100% des coachs donnent des programmes alimentaires. Ouais,
mais sur le papier, c'est des conseils.
À partir du moment où il y a un grammage ou quoi que ce soit, c'est.
Je suis d'accord avec toi.
Ou même le nom d'un aliment. Tu n'as pas le droit de donner le nom d'un aliment normalement. Mais bon, après, voilà, c'est du détail. Mais voilà.
Ok. Et une fois que tu as ça, c'est quoi? Toi, de ton côté, tu mets en place les différentes formules, il part sur les formules.
Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai mon contact qui s'occupe des factures et tout ça. Moi, j'aime pas trop ce rapport. Enfin, c'est un peu chiant, les contrats, les factures, le machin. Donc, ils en veulent, tant mieux. Voilà, je donne le mail de mon contact, ils gèrent tout ensemble. Comme ça, moi, je m'occupe que de faire les séances et leur faire un rappel à une séance de la fin pour reprendre un pack. Je vais toujours payer les packs en avance. Pareil, je suis très cool. Je fais très peu de contrats parce que j'ai pas envie que les gens soient engagés. Si demain la personne a envie d'arrêter et qu'on a fait que deux séances sur le pack, bah, elle s'arrête. C'est un peu bête hein, comme fonctionnement. Mais ça n'empêche pas.
Je suis bête, absolument pas, parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis persuadé que plus t'engages, moins les gens restent avec toi.
Ouais, c'est ça. Et puis, pourtant, j'ai des packs. Et du coup, ce qui pourrait paraître ridicule, c'est de se dire j'ai des packs de 10, 20, etc., 100 séances et qui sont dégressifs. Du coup, la personne, elle pourrait se dire je prends 100 séances, je m'arrête au bout de 2. Ils le font jamais. Ils me prennent des packs de 10 séances, généralement, c'est 10 ou 20 séances que les gens me prennent. Mais ils reprennent. Et encore une fois, c'est ça m'est jamais arrivé qu'une personne arrête. J'ai jamais eu une personne qui a arrêté parce que si il y en a qui j'ai un client récemment qui a dû partir à Dubaï par exemple, enfin voilà, il a arrêté, c'est logique. Mais j'ai jamais quelqu'un qui m'a dit bah j'arrête parce que ça me plaît plus ou j'ai envie de me lancer seul ou enfin peut-être que ça arrivera un jour, mais pour l'instant ça m'est jamais arrivé. Parce que je pense que je force pas en fait.
Bah, moins tu forces, plus les gens restent.
Bah, c'est ça.
Et ça c'est ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que plus t'engages, plus en fait tu mets une sorte de pression à ton client, et moins derrière il aura envie de rester sur le long terme. Alors que si tu lui dis bon, écoute, nous on part ensemble, et franchement tu peux t'arrêter quand tu veux, bah tout de suite en fait il aura beaucoup plus confiance en ce que tu vas lui apporter, parce qu'il va se dire attends, le mec il m'engage pas. C'est-à-dire qu'en fait, il est sûr de ce qu'il va m'apporter, bah, autant rester avec lui. Quoi.
Puis moi, et c'est ce que je dis tout le temps, je le dis toujours au début, à la première séance, c'est hyper important pour moi, je dis à la personne, tu n'es pas mon client, tu es mon élève. Et c'est vraiment différent, moi je veux pas avoir une relation de... Désolé.
C'est 1000 balles de matos.
J'ai pété ma montre en même temps.
La facture à ton comptable.
S'il a envie de te payer, il est pas pressé souvent. C'est un petit message pour lui.
La balle perdue en plein podcast.
Oui, moi je disais, ouais, non, moi je suis très très cool, mais vraiment, peut-être des fois on peut penser que je suis trop cool, mais en fait, mes élèves, du coup, c'est presque devenu pour 90% des gens mes potes. Y a toujours une limite hein, à pas dépasser, on est d'accord. Mais enfin voilà, je vais au restaurant avec certains, je vais voir des matchs avec d'autres, enfin, et c'est pas pour autant qu'on peut pas être pro pendant la séance. Et j'ai eu beaucoup de retours, et ça c'est hyper intéressant de le dire, je pense, dans le podcast. J'ai eu énormément de retours d'élèves que j'ai aujourd'hui qui m'ont dit, j'ai eu un coach pendant 4 ans. Et en fait, on est devenus amis, et du coup, il foutait plus rien pendant le coaching. Et du coup, bah, moi, je m'ennuyais pendant le coaching. Et ça, franchement, j'en ai eu plein de personnes qui m'ont dit ça. Et c'est l'erreur à faire. En fait, tu peux devenir pote. Moi, j'ai vraiment, je te dis, j'ai un client qui s'appelle Bruce, par exemple, avec qui que je déballe tout le temps sur les réseaux sociaux et qui je suis allé manger au resto avant-hier. Mais quand c'est la séance, c'est la séance. C'est, je suis le coach, t'es l'élève. Et voilà, faut rester pro, quoi. Même si.
C'est compliqué pour certains.
Cette limite, elle est très 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 vite dépassée en coaching. Et j'ai beaucoup de retours là-dessus.
Et comment est-ce que toi tu gères parce que là le client t'a fait la première séance d'essai avec lui, il prend le pack. Et comment ça se passe pour la suite? Est-ce que tu fixes un agenda directement avec eux?
Ah oui, ça c'est, ouais, c'est hyper important. Moi c'est que des créneaux fixes maintenant. Okay. C'est on fixe un créneau dans la semaine. Il est fixe, il bouge pas. Et bah, sauf si voilà, si j'ai une annulation dans la semaine, enfin je suis arrangeant, tu vois, c'est une question de bon sens encore une fois. Si la personne elle doit annuler parce qu'elle a une réunion et que moi je peux le recaler, je le recale. Mais j'essaie d'avoir une base fixe parce que si tous les clients bougent, c'est pas possible quoi, c'est une cata. Faut savoir que je tourne à peu près à 35 coachings par semaine, ce qui est beaucoup.
C'est énorme, ouais. Bah, 35 heures quoi, surtout avec les déplacements, donc ça fait beaucoup plus quoi.
Ouais. À peu près. Je fais, ouais, on va dire une demi-heure de déplacement, je me laisse entre chaque élève. Okay. Voilà, à peu près. Je travaille du lundi au samedi et souvent mon amplitude horaire c'est 7h-20h.
Ok.
Sauf le samedi. Je suis
charbonne encore à fond quoi.
Ouais, charbonne à fond. Mais je kiffe ce que je fais. Et maintenant je m'organise beaucoup mieux. Tu vois, je sais que le lundi je suis toujours à l'est de Paris. Le mardi je suis toujours dans le nord de Paris. Enfin, c'est un truc, avant c'était impossible. Avant je faisais droite-gauche, nord-sud dans la journée. Je faisais des kilomètres pas possibles quoi. Maintenant je m'organise et j'essaye toujours de privilégier aussi les clients qui sont à côté d'autres clients.
Donc, ok, d'accord. Donc sur ton orga, c'est beaucoup plus simple. Tu sais que là, tu vas voir ce client-là.
Ouais, c'est ça.
Bah, juste après, en fait, ce client-là, il est à 5 minutes de ce client-là. Donc en fait, tu perds moins de temps sur
le projet. Tu vois, le mercredi, par exemple, j'ai 4 clients le matin. Les 4 sont au jardin du Luxembourg. C'est pain béni, quoi. Il y en a un qui arrive et l'autre qui repart, quoi. C'est... Ouais. Donc c'est super cool.
Ok. Donc ouais, t'as vraiment structuré de façon pro.
Et puis là, je commence à faire sauter tous les soirs au fur et à mesure. Je suis en train de condenser mon agenda pour faire commencer à 6h les matins et finir à 14h, quoi.
D'accord.
Okay. Et j'aimerais me caler ça tous les jours.
Ok.
Voilà.
Et du coup, encore une fois, quand t'as un client, tu lui fixes un créneau et son créneau, il bouge pas. Toutes les semaines, même heure, même endroit.
C'est ça.
Okay.
Et en fait, tous les 31 août, parce que souvent à Paris, les gens partent pendant 2 mois, ils n'existent plus, puis ils reviennent le 1er septembre, je remets tout l'agenda à zéro. Et je leur dis, premier arrivé, premier servi. Donc, ils me répondent, ils me donnent leur créneau et au fur et à mesure, je remplis l'agenda. Voilà. Okay. Et je fais ça tous les ans.
Et du coup, ce qui est cool pour toi, parce qu'encore une fois, tu sais ce qui t'attend dans la semaine. Quoi. Tu peux t'organiser autrement et pas simplement en fait, ouvrir un calendrier, par exemple, et les gens beaucoup ils veulent et t'es un peu dans la
exactement,
merde.
Exactement. J'ai vraiment très très peu d'incertitude. Ouais, c'est comme ça. J'ai voulu sortir un mot savant.
C'est pas ça.
Mais ouais, je sais où je vais quand je vais. Je connais mon agenda un peu par cœur. Enfin voilà, donc c'est bien, c'est cool.
Ok, cool. Et pour le coaching en ligne, ça fonctionne comment?
Coaching en ligne, le process n'est pas encore trop rodé, donc en gros, si tu veux, c'est tellement peu rodé que je vois pas quand les gens payent. Et j'ai fait l'erreur au début, en fait. Si tu veux, j'ai mis un lien Stripe sur mon... Enfin, un lien de paiement sur mon truc. En fait, il y avait plein de gens qui payaient. Mais je savais pas qu'ils avaient payé.
Et du coup, ils recevaient rien.
Du coup, j'ai dû rembourser des gens parce que j'étais pas capable d'assurer le... Voilà. Donc, j'essaie de cadrer un peu ça. Mais enfin, j'ai un site, mais c'est pas trop moi qui gère. En fait, j'ai payé une agence pour faire mon site. Et je gère pas du tout ce côté-là.
Donc, si tu auras délégué à eux directement.
Là, honnêtement, certainement... Enfin, si tu me parles du coaching en ligne, il y a aucun process, quoi. C'est vraiment feeling et... il faut que je m'organise, quoi.
Okay.
Donc c'est pour ça aussi, ça revient à mon organisation de coaching à domicile. Vraiment, là, mon objectif à très très long terme, c'est dans quelques années, garder quelques coachings, mais peut-être même les arrêter totalement
et
remplacer au fur et à mesure par du en ligne. Et c'est vrai que je pense que ça me manquerait de plus faire de coaching à domicile. Donc soit je garderai de la visio, parce que je fais beaucoup de visio aujourd'hui avec des clients à moi, grâce au Covid. J'ai des clients avec qui je fais une fois visio, une fois présentiel.
Mm.
Beaucoup. Et j'aimerais bien garder ça, tu vois.
Et tu factures le même...
Ouais, parce que c'est des clients, en fait, c'est pas d'autres clients, c'est des clients...
Ce que je veux dire, c'est que t'as des coachs, en fait, qui se disent, bon, bah, vu que je le vois pas en physique, j'ai facturé moins cher. Bah, alors qu'en fait, c'est un non-sens, parce
la même
que
prestation, en fait,
c'est la même prestation, et ton temps, il vaut la même.
C'est ça, bah, à la limite, tu peux enlever les frais kilométriques, mais sachant que je facture 30 centimes par kilomètre...
tu factures 74,
virgule. En fait, on m'a jamais posé la question, on m'a jamais demandé... ces personnes-là qui m'ont même proposé de faire de la visio, j'ai eu un élan de solidarité qui était énorme pendant le Covid, vraiment hallucinant. Plein de gens, pourtant, même des personnes que j'ai qui sont âgées, qui m'ont proposé de faire de la visio et qui m'ont dit je te paye pareil. Ils étaient même prêts à me payer en avance et tout. Enfin, c'était hallucinant le nom. J'ai continué à bosser vraiment beaucoup en visio pendant le confinement. Les gens sont vraiment. Enfin, c'est
et t'as pas perdu. En fait, ton activité a pas pris un gros coup.
Non, même c'est plutôt l'inverse. Moi, c'est vraiment développé grâce au. Je peux pas remercier le Covid. Hein, je veux
dire ça, mais... Attention, Elliot Gates, top Twitter. Mais ok.
En fait, c'est moi.
il ressemble à quoi ton agenda aujourd'hui? Comment est-ce que tu t'es structuré entre les coachings, gérer le business, gérer les postes? Comment est-ce que tu t'es structuré sur ton agenda?
En gros, bon, je te le fais pas jour à jour, hein, mais en gros, le matin, je me lève très très tôt. Je me lève à 5h, généralement 5h, 5h20. Je prends mon petit déjeuner. Et après, j'essaie de checker un peu les commentaires. Je réponds, enfin voilà.
Dès le matin.
Désolé.
Dès le matin directement, tu checkes les commentaires.
Ouais, parce que c'est un moment que j'aime faire. Enfin, vraiment, c'est un truc que je kiffe faire.
Il vient de dire qu'il se levait à 5h, ils sont réveillés, c'est que maintenant. Il est grillé.
Sache que je fais énormément de siestes. Les siestes, c'est vraiment le truc qui sauve ma vie, quoi.
Ah, ok, d'accord.
Sieste tous les jours. Okay. Un quart d'heure, canapé.
Ça marche vraiment, ça?
Ah, ça marche super bien, ouais. Mais par contre, tu fais une demi-heure, t'es mort, quoi. Après, t'es vaseux et tu reprends une heure à récupérer. Donc,
ouais, c'est 15 minutes.
C'est vraiment un quart d'heure, quoi. Je me pose, je mets une alarme et un quart d'heure après, je suis reparti pour une journée, quoi. Okay. Sachant que je fais à peu près deux journées dans une journée, c'est hyper important. Et ouais, du coup, ouais, le matin, je réponds à tous les commentaires, aux messages. Enfin, je fais un peu le tri sur Instagram. Je prends le temps tranquillement et après, je pars au boulot. Forcément, je fais des stories pendant mes coachings quand j'en ai envie. Après, pendant ma journée de coaching, généralement, je touche pas au réseau. Okay. Quand je rentre chez moi, après, je commence à regarder un peu ce que j'ai à faire. Sachant que moi, tous mes posts sont faits en avance, du coup, c'est un truc qui m'allège vraiment. Puis j'ai ma copine derrière avec qui je planifie énormément, elle est super organisée, ça c'est génial, tu en as un Trello, je sais pas si tu vois ce que c'est. Et du coup, tout est planifié à l'avance, elle me dit, bon, t'as ça à faire, tu vois, là t'as une collab, faut faire une vidéo pour telle ou telle chose, t'as tel rendez-vous, enfin voilà, donc en fait tout est planifié, tout est organisé, c'est vraiment millimétré, voilà, c'est hyper important parce que avant j'étais tout le temps dans le speed, dans le rush, et j'avais l'impression en fait que ça me prenait presque plus de temps les réseaux que le reste, alors qu'en fait quand t'es organisé ça prend pas tant de temps que ça. Vraiment, je pense que sur une semaine complète, maintenant, aujourd'hui, je peux dire que je prends une heure et demie par jour à m'occuper des réseaux, quoi. Et pour autant, je fais autant que ce que je faisais avant. Parce que je fais au fur et à mesure. J'attends pas qu'il y ait 300 messages avant de me dire « Tiens, je vais peut-être répondre aux messages. »
Ouais. Ouais, t'attends pas de tout stocker avant de dire.
Non, j'attends. Voilà, le problème, c'est ça. Et je fais tout en avant, je planifie, parce que les posts, mine de rien, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc quand c'est planifié, bah, tu peux accorder du temps au reste. Tu peux accorder du temps à répondre aux gens en story, engager un peu les gens, leur répondre, répondre aux commentaires, mettre en place des concours, là, comme j'ai fait. Là, j'ai fait un concours de petit déjeuner, tu vois, faire des trucs stylés, des trucs fun, faire mes quiz, faire des trucs comme ça, quoi. Voilà. Moi, j'ai aussi envie de prendre du plaisir quand je fais les réseaux. Là, en fin d'année dernière, j'ai fait un burn-out complet parce que je bossais pas encore avec ma copine et que j'en pouvais plus. Bah, j'ai arrêté, quoi. Enfin, pendant un mois, j'ai arrêté complètement. Et quand j'en ai marre, j'arrête. C'est vraiment pas. Insta, c'est pas une contrainte pour moi. Tu vois, j'ai pas un contrat avec qui que ce soit. Quand je fais des collabs avec des gens, c'est ponctuel. Donc en dehors de ça.
Ouais, tu le gères comme tu veux.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et c'est ça aussi. Moi, j'ai beaucoup de retours là-dessus. Je pense que les gens ont besoin aujourd'hui de vrai. Et je pense qu'il faut arrêter de se dire qu'il faut absolument publier tel jour à telle heure. Faut arrêter de. Alors, oui, certainement, il y a peut-être un algorithme Instagram qui fait que. Mais au-delà de l'algorithme, il y a des humains derrière des ordinateurs et derrière des téléphones, et les gens oublient qu'il y a des humains. Et on a l'impression que c'est une machine à business, en fait. Et je te l'ai déjà dit deux fois là, dans le podcast, mais moi, je pense vraiment à l'inverse. C'est-à-dire que je donne du plaisir aux gens, et après, bah, ça rapporte tant mieux, c'est super cool. Mais dans l'autre sens, ça marche jamais. Enfin, ça marche peu, je pense, vraiment.
Bah, c'est, de toute façon, si t'apportes rien, dans tous les cas, ça marche pas. Donc,
Et même du superficiel... Enfin, se montrer tout le temps, c'est pas ce que les gens attendent aujourd'hui. Tu vois, si t'es un mec qui est super bien foutu et que tu te montres beaucoup trop, moi j'ai eu des retours, je citerai pas de nom, hein, mais et du coup en fait ça complexe les gens, tu vois. Moi je suis une personne normale, tu vois. Récemment j'ai montré que ça faisait 6 mois que j'avais pas eu le temps de trop faire de sport, que j'avais du gras au ventre alors que je suis coach sportif. Les gens ils aiment bien ça parce que c'est la vérité en fait. Je suis pas parfait, j'ai pas une alimentation parfaite, ça peut m'arriver de manger dans des fast-food, dans voilà. Je pense que il faut. Il faut que ton compte Instagram soit une vitrine, ouais, mais il faut que ce soit le reflet aussi de ce que tu es vraiment. Voilà, c'est beau.
Ouais, ça, je le mettrai en extrait de TikTok, des millions de vues, etc. Mais d'ailleurs, par rapport à TikTok, YouTube, comment est-ce que tu le développes, ça, et qu'est-ce que ça apporte à ton activité pour le moment?
Alors, YouTube, je pense que c'est le réseau vraiment sur lequel je vais me le pencher le plus. Okay. YouTube, un peu, c'est la plateforme qui me permet de faire des entraînements. Et c'est là où je fais des lives aussi. C'est pas du tout structuré pour l'instant. Là j'ai commencé à investir un peu, j'ai une équipe de tournage qui fait mes vidéos pour que ce soit des vidéos plus quali. Qui fait les montages, etc. Parce que c'est pareil, je faisais ça au début tout seul, mais je prenais à peu près 5 heures à faire un montage sur Adobe Premiere, ouais. Pour une vidéo de 10 minutes, pas très rentable quoi. Donc je sais pas combien de temps ils prennent, mais bon, en tout cas ils le font bien et ça me prend pas trop de temps. Et ouais, je pense que YouTube c'est un truc que je veux vraiment développer. J'aimerais vraiment développer la partie créa de contenu, mais vulgariser quoi, sur YouTube. Moi, je veux vraiment garder cette identité et je pense que c'est pas l'identité de tout le monde. C'est vraiment, moi, j'aimerais qu'un gamin de 12 ans, il puisse aller sur tous mes réseaux sociaux et qu'il puisse s'en servir comme outil. Et je veux pas que ce soit juste des personnes qui s'intéressent au fitness. Je veux vraiment que n'importe qui puisse comprendre ce que j'explique. Voilà, c'est vraiment pour ça que TikTok aussi, c'est un beau réseau pour ça.
Ouais, voilà, là,
pour l'instant, j'ai fait quelques recettes et je commence un petit peu à développer la chose, mais c'est pareil, j'ai fait... Enfin, je vais commencer à me pencher
depuis
sur...
Depuis qu'on a commencé l'épisode, là, t'as pris 150 abonnés sur TikTok.
2000, non?
T'es passé des 1600... Ouais, 1500 et quelques à 1704.
C'est beau, c'est pas mal. Magnifique, super.
Ça paye de passer, j'ai
fait. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je pense que c'est ça.
Mais ouais, sur ça, c'est... Bah, quand on parlait de référencement tout à l'heure, tu vois, YouTube, c'est clairement une plateforme où tu vas référencer ton contenu. Et les gens, quand ils vont taper avec les mots-clés, ils vont tomber sur ton contenu. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Jim Key, par exemple. Tu vois, c'est que les vidéos qu'on fait, des vidéos par rapport à ce qu'ils recherchaient, par rapport à ce que nous, on a envie de mettre en place, mais des vidéos qu'on a mis il y a 4 mois, bah, en fait, elles continuent à générer parce que les gens, ils cherchent. Donc, ils veulent visionner, ils veulent regarder. Donc, en fait, tous les mois, en fait, ton nombre de vues et le nombre de personnes touchées,
ça augmente, c'est exponentiel, voilà, c'est ça.
Il n'y a jamais en fait de. À part si tu arrêtes complètement de faire des vidéos, et encore, parce que tu as toujours des vues qui commencent à être générées, et surtout que tu es mieux référencé, ton site web est mieux référencé. Sur Google, quand les gens ils vont chercher un truc, bah, dans l'onglet vidéo, ils tombent sur toi, donc il y a plein d'avantages à pousser.
YouTube, je pense que c'est vraiment le. Enfin, après, c'est pas vraiment un réseau social. Enfin, moi, je vois pas ça comme un réseau social, mais voilà, un moteur de recherche, ouais. C'est un peu différent. Mais je pense que c'est vraiment, il faut être qualifié pour YouTube, tu vois. Tu peux faire un peu du freestyle sur tous les réseaux sociaux, mais YouTube, tu peux pas, quoi. Faut les bons mots-clés, faut faire... Voilà, alors à moins que tout ton trafic vienne d'Instagram, mais du coup, ça sert à rien. Voilà, c'est plutôt... Pour moi, enfin, en fait, je fais pas trop de... Enfin, je fais peu de pubs de mes réseaux sociaux, en fait. Je veux
entre
que...
eux, ok.
Ouais, en fait... Enfin, si, non, je dis des bêtises. Je fais peu de pubs pour YouTube et pour TikTok. Par contre, je fais beaucoup de pubs pour Instagram, de manière à ce que tous les réseaux se rassemblent vers Instagram.
Bien sûr, ouais.
Voilà.
Ouais. Donc, de YouTube, tu renvoies Instagram, TikTok, tu renvoies Instagram.
Voilà, c'est ça.
Et...
Okay. C'est ça.
Ok, cool. Non, mais c'est intéressant, parce qu'encore une fois, là, t'as expliqué pas mal de choses sur les réseaux sociaux, et comme quoi, en fait, si t'avais une bonne organisation, tu pouvais quand même te démerder correctement à
bien
créer
sûr,
du contenu, toujours garder en tête qu'il faut apporter de la valeur, puisque toujours se montrer, ça, on s'en tape un peu. Le but, c'est d'apporter de la valeur aux personnes qui suivent, parce que si toi t'apportes pas de valeur, bah il y a plein d'autres comptes qui vont en apporter et qui eux en fait vont justement, même si tu penses pas en mode business, bah d'avoir des nouveaux clients qui seront générés pour eux et pas pour toi, parce que lui a compris qu'il fallait d'abord aider les gens avant de commencer à recevoir le moindre centime de ces clients là.
Et puis il faut arrêter le plagiat, vraiment. C'est non, mais je te dis, c'est un truc. Enfin, moi, je le vois parce que je fais partie des. Vraiment, encore sans aucune prétention, je fais partie des premiers parce que je suis arrivé au bon moment sur ce site d'infographie. Et je vois des dizaines et dizaines de comptes qui se développent. Et même encore aujourd'hui, il y en a des nouveaux qui se créent. mais c'est toutes les mêmes infographies, les gars, quoi. Et ils reprennent les infographies de comptes que je connais, parce que je les connais, ces infographies. Et, mais ça sert à rien. En fait, ils se rendent pas compte qu'ils gagnent des abonnés, mais que c'est hyper temporaire et que c'est du vide ce qu'ils gagnent, en fait. Il y a plein de gens qui vont avoir 50, 60 000 abonnés, qui vont avoir 200 likes sur leur post, mais ils sont contents parce qu'ils ont plein d'abonnés. Mais et c'est pas ça. Enfin, il faut créer son propre contenu, il faut se créer surtout sa propre patte. C'est pas parce que tu fais la même chose en juste en changeant la typographie. La typologie, typographie, je crois.
Typographie.
Typographie. Que tu génères vraiment en fait de l'engagement auprès de ta communauté, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, clairement. Mais
oui, parce qu'ils disent ouais, je vais copier-coller et ça va autant marcher que le mec qui l'a fait, qui a généré plein de commentaires. C'est alors ça. Que lui, s'il génère plein de commentaires, c'est parce que tous les posts se ressemblent, on sent sa patte, son audience a compris que c'était lui qui l'avait fait parce que il y a ses mots à lui, il y a ses expressions à lui. Tu sens quand ça a été fait par. Non, mais
des fois, s'il te plaît, je le dis parce que c'est un truc qui me saoule quand même parce que tu passes du temps à faire des posts et. Je sais pas si on en a parlé sur tes podcasts, il y en a qui en ont parlé un peu du plagiat et tout, mais enfin, moi des fois je retrouve des posts à moi, et des fois j'ai même fait des fautes de frappe sur mes posts, la même faute de frappe, et qui a fait un effort quoi, au moins.
Ça copier correctement, putain,
les gars. Je te jure, c'est assez hallucinant, et du coup moi là je suis en train de voir pour avoir une infographiste pour vraiment que plus personne puisse me plagier, parce que c'est une cata quoi, c'est vraiment difficile sur Instagram et c'est pour ça aussi que ça a mis un petit coup de frein, tu vois, je me suis développé très très vite et là ça ralentit un petit peu, tous les comptes ont ralenti un petit peu parce qu'en fait on est dans une sorte de champ où il y a tout est pareil et du coup on perd tous en crédibilité en fait.
Non, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a pas un contenu qui se différencie à chaque fois sur les sur les comptes et tu vois c'est...
Et tu peux être sûr que là tu vois là j'ai créé une infographie qui est un petit peu différente, la dernière que j'ai créée sur le gras, je me suis vraiment creusé la tête, tu vois, je fais de la lecture pour faire un truc un peu différent, tu peux être sûr dans un mois tu la retrouves sur au moins 10 comptes.
Elle est pas encore sortie,
si c'est la patience. Dernière que j'ai mise.
La dernière c'est la patience, ok ouais.
Tu referas un podcast avec quelqu'un, tu verras, il t'en parlera, mais il l'aura vu sur un autre compte.
Ouais, tu m'étonnes, ok. Toi de ton côté aujourd'hui c'est quoi les... parce que tu vois on a parlé d'organisation, on a parlé de Canva, de Premiere Pro, ouais. C'est quoi toi aujourd'hui les outils que tu utilises pour développer ton activité, que ce soit sur Insta ou peu importe?
J'ai Canva comme je te disais là pour tout ce qui est côté infographie, j'utilise Splice, je sais pas si tu connais pour,
Splice
ouais c'est pour des petits montages vidéo quand tu fais des TikTok, des trucs comme ça.
Ok, moi je connaissais vide.io mais Splice je connaissais pas.
Je l'ai téléchargé, je vais
tester
encore.
C'est cool, c'est pas mal. Et puis ce qui est bien en fait, c'est que du coup, vu que t'as ton rush complet, en fait, tu sais, Insta il te défonce un peu si tu mets un TikTok sur Insta.
Ouais.
Du coup, bah t'as déjà ton rush, t'as plus qu'à faire Insta, TikTok et juste mettre les petites phrases. Okay. Là, c'est ma petite stratégie jusqu'à ce qu'il détecte que, que c'est fait comme ça. Mais voilà, ça évite de refaire deux fois ta vidéo, quoi, deux fois le montage. Et, parce que pour l'instant, je mets quand même quasiment la même chose sur TikTok et Insta. Et je pense qu'il faudra que je me différencie à long terme. Et sinon, notre truc, bah, Jinky.
Évidemment.
Le créateur, il est exceptionnel. Tu vas aller faire son podcast, c'est vraiment cool.
Je me demande ça qui tient.
Ça, c'est vraiment un outil. Et vraiment, je le dis pas parce que je suis sur ton podcast, mais
tu m'avais appelé de toute façon la dernière fois.
Ouais, non, mais c'est vraiment moi, ça m'a changé la vie parce que j'envisageais vraiment pas le fait de faire du coaching en ligne parce que ça me prenait un temps de taré et je t'envoyais des PDF, c'était moche, quoi. Je me disais mais c'est pas possible, quoi. Ça me prenait un temps de fou et puis j'ai essayé des applications, j'ai essayé plein de trucs et franchement c'était pas possible. Et là vraiment j'ai l'impression que voilà, en une demi-heure je peux te faire un truc hyper carré et tu peux sauvegarder, enfin tu peux créer des trucs automatisés, enfin voilà, moi c'est vraiment un truc, ça me soulage, quoi, vraiment.
Et merci Jimky.
Merci Jimky.
Non, c'est cool.
Du coup il y a ça et puis on peut pas appeler ça un outil, mais bon moi j'ai une alternante qui bosse pour moi. Non mais c'est hyper important d'en parler, c'est hyper important,
attention, faut pas sur balance ça sortait pas.
Mais non, on en parle pas suffisamment, mais tu vois, enfin les gens ont trop peur d'investir, ont trop peur de prendre quelqu'un, et alors que prendre quelqu'un, ça, en fait tu gagnes plus au change que tu vas payer la personne, surtout avec les aides de l'État d'aujourd'hui, enfin c'est du pain béni, quoi. C'est t'as quelqu'un qui travaille pour toi à temps plein, qui peut être là quand toi t'as un impératif et tu peux pas assurer, tu vois. Quand j'ai des invites à droite à gauche, elle va me suivre, elle me prend en vidéo, c'est génial, quoi. C'est, moi ça me change la vie, depuis qu'elle travaille pour moi j'ai l'impression d'avoir ça m'a vraiment ça me change tout, quoi.
Ouais, investir, parce qu'encore une fois c'est une des problématiques, c'est que quand les coachs sportifs vu qu'ils ont pas en fait cette éducation business, ils pensent pas à investir,
mais les gens ne veulent pas investir alors qu'il faut investir, c'est important, quoi. C'est la base d'investir. Alors, même quand t'as pas d'argent, il faut investir. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais il y a toujours un retour sur investissement. quand tu le fais bien.
Mmh, ouais, quand tu le fais bien.
Parce que faire les pubs sur Insta, c'est pas trop.
C'est quelquefois c'est ce que nous on fait récemment sur 2-3 posts, c'est que tu vois sur les
pour la vente de quelque chose direct
ou... Non, pas du tout, même pas. En fait, c'est sur les carrousels qui fonctionnent le mieux. En fait, on met je mets un budget de 5 balles par jour. Et en gros, quand je mets un budget de 5 balles par jour sur des carrousels qui ont bien fonctionné, bah en fait, ce qui se passe, c'est que ça me crée de l'interaction. T'as des coachs sportifs qui m'envoient des messages sur le ads, ouais, merci pour le post. J'ai des abonnements qui sont ouais, des voilà, vrais coachs sportifs qui s'abonnent au compte, tu vois, parce que là, on est passé. J'ai commencé à le faire il y a 2 semaines. Et en gros, le compte Jimki est passé de 700 abonnés à 977 aujourd'hui. Parce que les posts, on apporte vraiment de la valeur. Bah, c'est ça que je sponsor. Je sponsor pas en fait une vidéo qui te dit achète Jimki. Non, il n'y a pas de vidéo qui va te dire Jimki c'est la meilleure app, même si c'est le cas, mais il n'y a aucune vidéo où je dis achetez l'application, faites ci. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte de la valeur. En bas, il y a le lien pour essayer Jimki. Je dis si tu veux essayer Jimki, le lien dans le commentaire. Et là, dans les carousels, c'est simplement de dire bon, on apporte de la valeur. Ce que je veux, c'est que je veux le montrer. Ce post a plu, je veux le montrer à le plus de monde. Je mets un petit budget. Et ce petit budget-là, en fait, il me permet de montrer le post à plus de monde. Les gens, ils adorent, ils me trouvent. Donc, ils s'abonnent à Jimki, ils sont contents parce qu'il y a d'autres posts, d'autres vidéos. Et ça fonctionne comme ça, tu vois, c'est pas...
On arrive dans une société aujourd'hui où c'est tellement, tellement de l'instantané, en fait, que les gens ont accès à tout aujourd'hui.
Ouais.
Et en fait, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Je sais pas si ton expérience est la même, mais moi, par exemple, quand je vais sur les réseaux sociaux, que je check un peu les comptes et tout, je vois un truc que c'est écrit acheter, je passe direct. Je lis même pas le post. Ouais. Tu vois, alors que quand t'amènes du contenu et que derrière, t'as le choix. T'as le choix d'acheter et t'as le choix de cliquer sur un lien parce que t'as envie d'acheter, bah tu vas acheter. Mais si on te dit achète, t'achèteras pas. Et les gens font l'erreur de se faire. Mais moi j'en vois plein des pubs en story sponsorisées, même de coachs sportifs.
Là, les pubs en story, généralement tu skips, hein, y a plus de. Je sais pas si ça fonctionne. Le dire acheter. Après, t'as forcément une partie de la communauté qui va aller et qui va acheter.
Oui, oui.
Mais moi personnellement, quand je hop là, je tape.
Ouais, on fait tous pareil.
Mmh.
Ouais. Ou alors c'était intelligent, tu cliques sur le lien puis après t'enlèves pour.
et c'est quoi les trucs que tu peux utiliser toi dans ton activité de tous les jours?
Tu parles de tout ce qui est internet, hein.
De n'importe quel outil, c'est toi ce qui te permet aujourd'hui de développer ton activité, ce qui te facilite la vie. Donc t'as parlé de Canva, de Splice,
ouais,
de plein
Canva,
de choses.
Canva, Splice, j'ai pas beaucoup d'outils après. Hein, non, à part du matériel si tu veux, des trépieds, enfin bon, voilà, la base quoi.
La base, t'en as pas beaucoup qui investissent dedans, mais t'en as pas beaucoup qui vont investir dans des trépieds, t'en as beaucoup qui vont investir dans un bon téléphone pour prendre de bonnes photos parce que, encore une fois.
C'est ce que je fais, moi je suis toujours, ça peut paraître ridicule, mais moi j'achète toujours le dernier iPhone parce que ça fait des super photos et que, au final, je peux.
Les stories, Instagram.
Ouais, voilà, c'est ça. Et même si Instagram te met un petit coup sur la qualité quand tu mets un GIF, ça reste quand même très quali. Et sur YouTube, tu peux mettre de la 4K maintenant avec un téléphone. T'as plus besoin d'investir dans un appareil, parce qu'un appareil en plus c'est manuel, donc c'est galère pour quand tu t'y connais pas, ça sert à rien. Un très bon téléphone, ça fait des super vidéos quoi.
Clairement, bien sûr. Bah, sur l'autre podcast qu'on a, le plan central c'est un iPhone. Hein. La tête de cam, parce qu'il n'y a que 2 plans. Mais sinon, dans une troisième, ça aurait été clairement un iPhone parce que ça fait largement le travail. T'en as beaucoup qui disent non, mais pour lancer du contenu, je dois m'acheter des cams, je dois m'acheter de super micros. Bah non, en fait, tu peux commencer avec ton iPhone.
Je fais rien avec un micro, hein. Sache-le. Alors que, pourtant, on entend bien sur mes vidéos, ça se passe bien, tu vois. Mais ouais, moi, aujourd'hui, j'ose plus investir. Et tu vois, j'ai même monté ma société. Pour les réseaux sociaux, j'ai une société, une entité juste pour mes réseaux sociaux, avec un nom, j'ai déposé à l'ICAD, etc. Enfin, voilà, c'est important, faut investir, en fait, pour moi, quand tu développes sur les réseaux à ce niveau-là, enfin, t'es une marque en fait.
Ouais, clairement.
T'es une marque, voilà.
Ouais, donc t'hésites pas à investir. Et ça, on le dit, on le répète et on le redit. Gardez pas vos sous sur le compte en banque, ça ne sert à rien.
Ben non.
Il faut réinvestir parce que l'argent amène l'argent.
Il faut pas voir court terme, faut pas se dire bah là j'ai investi, ça m'a rien rapporté dans le mois, mais c'est sur le long terme que ça apporte en fait. C'est le travail, c'est la labeur. J'aurais jamais pensé il y a 3 ans en arrière qu'aujourd'hui les réseaux sociaux m'apporteraient ce qu'ils m'apportent aujourd'hui, tu vois.
Mais surtout que vu que t'étais pas dedans, c'est encore moins évident
c'est
pour
ça,
toi.
C'est ça. Mais ce qui est génial, c'est qu'au-delà de l'aspect financier, c'est que je suis invité à plein d'endroits. Puis là, ça va encore s'accélérer parce que ça y est, c'est enfin fini un peu avec le Covid. Ouais. Donc je suis invité sur plein de salons, des événements. Enfin, c'est ouf quoi.
Ça change une vie en fait.
Bah ouais, j'ai l'impression d'être un guest. Des fois, on m'invite dans des trucs que j'aurais jamais fait par moi-même. Et en plus, j'y vais gratuitement. C'est ouf.
Ouais, des fois, tu peux même être payé pour y aller. Donc à partir de là.
Et ouais, en plus, ouais. C'est génial. Enfin, c'est ouf quoi.
Non, c'est cool.
Puis il y a des gros projets en plus qui arrivent bientôt. Donc.
Tu peux en parler ou pas? Non, pas encore.
Il y a des gros projets, Garak.
Ok, cool.
Avril. Retenez Avril.
Avril, il y a quoi? C'est pas le syndrome du non, c'est pas le syndrome du Body Fitness en Avril.
Non, c'est un projet que pour moi.
Ah, ok, d'accord. Ok. Ok, toi aujourd'hui, si tu devais donner. Ça, tu vois, c'est la... je te parlais de phrase TikTokable. La phrase TikTokable. Mm-hmm. Si tu devais donner un conseil aux coachs sportifs qui se lancent ou qui sont déjà en place, ça serait quoi?
C'est s'estimer à sa vraie valeur.
Ok.
Voilà, c'est. Je peux donner un deuxième conseil? Fais voir le coaching, pas comme du bénévolat, vraiment. Des fois, t'as l'impression, quand tu parles à des coachs débutants, que bah, c'est du bénévolat ce que tu fais, parce que c'est un métier. On n'a pas l'impression que c'est un métier, en fait. Vu que. Enfin, comment te dire? Aujourd'hui, les métiers qu'on fait, c'est des métiers différents de ce que nos parents faisaient. On est beaucoup moins assis dans un bureau. Et c'est des choses pour autant qui vont apporter autant à la vie des gens. Tu vois, ça va leur apporter la productivité. En fait, on réfléchit pas à tout ça, mais un coaching, bah, pour un chef d'entreprise, ça lui apporte vraiment de la productivité. Il est plus productif au boulot, il a une meilleure santé mentale, une meilleure santé physique. Tu apportes une plus-value, mais juste énorme à la personne, quoi. Et on n'y pense pas à tout ça. C'est pas simplement je suis debout et je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, je compte pas les répétitions. Mmh. Enfin, tu vois, c'est pas que ça. C'est vraiment, tu apportes quelque chose, une plus-value à la vie de la personne. Du coup, faut t'estimer à la juste valeur, quoi. Faut savoir te vendre. Vends-toi à ton prix, quoi. Essaie pas de vendre moins cher. Enfin, ça marche pas, en plus.
Ouais. Et donner une vraie valeur à son coaching. D'ailleurs, en plus, ce matin, j'écrivais une nouvelle vidéo sur le syndrome de l'imposteur en tant que coach sportif.
Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est le syndrome de l'imposteur, c'est exactement. Mais moi, je l'ai vécu. Ça m'arrive des fois encore de me dire dans ma tête, mais.
Mais évidemment, si tu l'as vécu une fois, même des très gros coachs sportifs, hein, qui sont en mode. Ouais, mais je sais pas, j'ai eu de la chance, je mérite pas ce que j'ai. Bref.
Même aujourd'hui, tu vois, quand je vois mes 120K sur Insta, des fois je me dis, mais enfin, qu'est-ce qui fait que moi j'ai 120K et pas les autres? Et puis bah, je me dis que j'ai travaillé quand même, je le mérite au final. Aujourd'hui, quand tu dis que tu mérites quelque chose, on te prend pour un mec un peu un méta-personne arrogant. Mais non, tu travailles vraiment. Il faut se rendre compte que. Et puis, un conseil, vraiment, les réseaux sociaux, quoi, c'est indispensable aujourd'hui, vraiment. Surtout pour nos jobs, c'est vraiment indispensable.
Mais pas Instagram qui est le réseau. À l'état pur du fitness et du sport.
Ah, mais bien sûr, bien sûr. TikTok aussi, ça commence. Hein.
Mais TikTok, c'est ça, je le pousse et je le redis.
TikTok, et je pense que TikTok, c'est l'avenir. Je pense que.
Et c'est pas un réseau. Pour moi, c'est ce qu'on disait avec Flo la dernière fois, c'est vraiment une plateforme. C'est une plateforme de contenu vidéo.
Ouais, mais je pense qu'Instagram, ça durera pas. Enfin, je pense qu'Instagram, on commence déjà un peu à s'essouffler un petit peu, Instagram. En tout cas, dans notre domaine d'activité. Donc, c'est bien d'avoir. En fait, pour moi, il vaut mieux avoir un Instagram qu'un LinkedIn, tu vois. C'est une vraie vitrine. Et il faut avoir un site internet. Il y a plein de gens qui disent qu'un site internet ça sert à rien. Instagram c'est ta vitrine, ton site internet c'est ta conversion.
Voilà, je pars au débat dessus, moi je vais repartir pendant une heure encore là-dessus, mais oui.
Et si tu convertis pas, bah tu manges des pâtes.
Et encore, peut-être des pires.
Non, mais c'est vrai, c'est hyper important. Enfin, moi j'ai un site, sur mon site je vends mes e-books, je vends mes coachings. Avant je vendais même mes coachings à domicile, je le fais plus. Mais c'est hyper pratique. Il y a des gens qui adorent payer par carte, c'est un détail qui. Ridicule. Stripe te prend une commission ridicule, enfin, ils te prennent rien en réalité. C'est une énorme plus-value de pouvoir dire à ton client bah, tu vas sur mon site internet, tu me payes par carte. Enfin, c'est bête, hein, mais je t'assure que moi, ça, il y a plein de gens qui m'ont dit bah, voilà, c'est super cool, quoi, personne ne le fait.
Ils veulent du cash, quoi.
Bah ouais, c'est ça.
Ouais. C'est pourquoi ils veulent du cash. Donc, c'est pas tout le temps le meilleur remove parce que tu peux rien faire après avec ce cash-là.
Bah oui.
Ah, tu peux payer des petites choses, mais investir dans ton business.
Ça aussi, c'est un conseil que je donnerais, même si voilà, c'est très, très borderline. Mais franchement, en tant que coach sportif, t'es très vite tenté de faire, comme tu dis, du cash, mais ça te sert à rien. En fait, tu vis pas de ça. Et tu peux pas investir après derrière. Tu peux pas t'en servir. Fin...
Alors que même pour l'expérience client, aujourd'hui, j'ai jamais de cash sur moi.
Ah oui.
J'ai absolument pas de cash. Tu me dis, on va en coaching et tu me dis, va retirer le distributeur.
C'est chiant.
Mais jamais de la vie, je suis. Mais
voilà, les gens, maintenant, ils te font un virement, ils te font un
chèque. Surtout qu'aujourd'hui, t'as des solutions, comme des trucs sum-up, etc., où tu peux arriver.
Bien sûr.
Et simplement, ton client fait un tap avec son téléphone, peu importe, et il t'a payé.
Mais bien sûr.
Oui, t'as perdu 0,quelques pourcentages sur ton truc. Oui, tu vas devoir déclarer à l'URSSAF. De toute façon, t'as tout intérêt à le faire, parce que le jour, ils vont tomber dessus, tu vas pleurer du sang.
Et puis, moi, je vais te dire, bon, heureusement que l'URSSAF était là, parce que tout le monde se plaint, mais moi, pendant le Covid, j'ai eu des aides tous les mois pendant un an.
C'est ça.
Et je suis bien content d'avoir payé mes impôts.
Ceux qui l'ont pas payé, par contre, c'est dans la merde.
Bah ouais, voilà, c'est ça.
Ça a été le revers de la médaille.
Voilà. Donc demain, il se repasse un truc, t'es bien content d'avoir payé tes impôts.
Clairement.
Hein, surtout que faut oublier qu'il y a des trucs de formation, etc. Enfin, c'est voilà.
Il y a plein d'avantages aussi.
Rares sont les gens qui aiment payer les impôts, mais en même temps, tu payes les impôts de ce que tu gagnes.
Ouais, c'est ça. Ça pique un peu, mais. mais voilà, ok. Est-ce que toi, t'as des inspirations Qu'est-ce qui t'inspire?
Des inspirations, c'est-à-dire
Qui tu copies? Non, je rigole.
Qui je copie?
Mais est-ce que tu as des inspirations aujourd'hui? Est-ce que tu as des coachs sportifs, peut-être américains, qui t'inspirent, des entrepreneurs qui t'inspirent?
En fait, moi, je suis. En fait, moi, vu que je suis. Enfin, comment te dire? En fait, je suis pas trop inspiré par les coachs. Je suis plutôt inspiré par le contenu, les bouquins que je vais lire. Alors, moi, je suis un vrai passionné, comme je t'ai dit, de la physiologie, l'anatomie, la nutrition. Moi, les infographies que je vois sur. C'est pas un... Tu vois, même le contenu que moi-même je propose, c'est pas un truc que je lirais. Moi, j'aime bien pousser énormément ce que je.
Parce que sur Instagram, tu peux pas te pousser, sinon tu perds des gens. Donc.
Voilà, c'est ça, exactement. J'ai essayé plusieurs fois de faire des posts genre poussés, de likes.
Tu m'aides.
T'arrêtes. Non, franchement, sincèrement, non. J'ai pas de nom en tout cas qui me viennent en tête comme ça. Il y a des coachs que je respecte parce que je trouve qu'ils gèrent super bien leur business, la manière d'amener les choses. Tu vois, mais comme Charlie EVT, je trouve qu'il gère super bien son business. C'est un mec qui est super doué avec comment caler ses mots, tu vois, il sait vendre, tu vois, tu sens que le mec il est calé avec ça. Et il y a des gens comme ça, je respecte parce qu'ils arrivent à gérer leur truc. Mais j'ai pas vraiment d'inspiration en termes de contenu, en termes de.
Ok.
Bon, j'aime bien ce que je fais en vrai.
Non, mais c'est très bien ce que tu fais, c'est pour ça que t'es là aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on aime bien ce que tu fais. Où est-ce qu'on peut te suivre du coup?
Instagram,
ouais.
Elliot Saja. TikTok, Elliot Saja. YouTube. Évidemment.
Elliot Saja. Pour ceux qui n'auraient pas compris, il s'appelle Elliot.
Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, ça pourrait tout.
Ok. De toute façon, je mettrai tous les liens en description. Évidemment, je mettrai le lien de ton site web également en description. Pour le backlink, c'est gratuit, c'est offert par la maison.
C'est cool.
Non, mais en tout cas, c'est ultra cool d'avoir eu ton retour d'expérience dessus parce qu'encore une fois, ce que tu proposes, c'est ultra quali. Il y a beaucoup de choses dont. Que tu as partagé aujourd'hui qui vont faire écho chez pas mal de coachs sportifs, tu vois, qui débutent ou bien même qui sont déjà en place. Parce que, encore une fois, tu as beaucoup de coachs sportifs, des gros coachs sportifs qui écoutent le podcast, qui se disent la façon dont il l'a vu, je l'avais pas vu comme ça, tu vois.
Ouais.
Donc, tu as plein de choses que tu peux trouver, plein de choses que chacun peut prendre sur le parcours des autres coachs sportifs. Et je suis vraiment content que tu aies accepté l'invitation aujourd'hui, que tu aies partagé ton retour. Donc, merci beaucoup pour ça. Évidemment, je mettrai tous tes liens dans la description pour qu'on aille voir un peu ce que tu proposes. Et éviter le plagiat, par contre. Si je mets le lien en description,
c'est pas pour aller plagier,
les gars. Attention, hein, je vérifie.
Ah, puis un dernier truc que je voulais rajouter avant, tu me parlais de conseils pour les coachs, c'est aussi votre physique. Quoi. Vous forcez pas à chercher à avoir un physique de buffle pour vous sentir légitime. Parce que j'en connais aussi beaucoup qui me disent mais tu vois, je suis tout mince, je suis pas légitime. Tu vois, moi, je suis pas du tout un buffle et c'est pas pour autant que je me sens pas légitime. C'est hyper important de dissocier le côté cérébral et le côté esthétique, quoi. Mais tu peux être aussi un buffle et très intelligent.
Ouais, c'est pas vraiment, ouais. Il va pas dire que je suis plus des buffles, plus des cons, quoi. Je te jure. Oh putain, ok, nickel. Ça fait 1h35 tout pile.
Ah, oui.
Donc on a 5 minutes de plus. C'est pas grave, on est quand même dans les temps. Merci en tout cas pour tout ce que tu as pu partager, Elliot. Ça fait ultra plaisir. Ça va aider pas mal de coachs sportifs.
Merci à toi de m'avoir
invité. Bah, normal. Merci à toi, coach sportif, qui a suivi cet épisode jusqu'au bout, que tu l'aies regardé ou que tu l'aies écouté. Si tu es sur YouTube, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne YouTube Jim Key parce qu'il y a 60% des coachs sportifs qui consomment le contenu qui sont pas abonnés, donc on va forcément finir par s'embrouiller tous les deux. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube de Jim Key, à partager cet épisode à des coachs sportifs autour de toi, ça pourrait les aider énormément. Si tu es sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, n'hésite pas à laisser les 5 étoiles, ce qui nous permet d'avoir un meilleur référencement et de permettre à d'autres coachs sportifs de pouvoir trouver cet épisode-là. Et évidemment, tu vas pouvoir retrouver en description de l'épisode sur les différentes plateformes le site de Elliot, son Instagram et tous les réseaux qu'il a pu partager. Et évidemment, tu vas pouvoir retrouver également ton lien pour essayer gratuitement Jim Key pendant 7 jours. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et d'ici là, je te souhaite de très bons coachings et surtout, prends soin de toi. Salut.